Montpellier Agglo, le magazine d'information de la communauté d'agglomération de Montpellier.
À la une du numéro 10 de votre magazine Montpellier Agglo du mois de mars 2013, une photographie, celle d'un homme d'une cinquantaine d'années, un employé de Montpellier Agglomération discutant avec une femme. Tous deux sont penchés sur un dépliant de la communauté d'agglomération. Ils posent devant l'entrée d'une maison dont on aperçoit le portail de fer forgé et un olivier dans le jardin. Le cliché illustre le titre de la une au service des habitants.
Montpellier Agglo, le magazine d'information de la communauté d'agglomération de Montpellier.
Le sommaire de votre magazine Montpellier Agglo.
Éditorial.
CD1, plage 3.
L'Agglo et vous, plus d'échanges en ligne avec l'agglomération.
CD1, plage 4.
L'Agglo à chaud, Jean-Pierre Moore accueille Vincent Payon à l'agglomération.
CD1, plage 5.
Des bases et des idéaux, faut-il imposer des quotas de femmes?
CD1, plage 6.
Événement de l'Agglo, 12 insoumises s'exposent pour les droits des femmes.
CD1, plage 7.
Décision d'Agglo, 1 million d'euros en soutien au TPE artisanal.
CD1, plage 8.
Portfolio, mon Agglo en photo, professeur David Noca.
CD1, plage 9.
Attractive Agglo, une PME de l'agglomération équipe les plus grands sportifs.
CD1, plage 10.
Souffle d'Agglo, athlétisme, un grand bond en avant.
CD1, plage 11.
L'Agglo durable, 32 propositions citoyennes pour optimiser les services de l'eau.
CD1, plage 12.
L'Agglo en scène, l'école d'art dramatique écrit une nouvelle page.
CD1, plage 13.
L'Agglo demain, stade de la Mausson, un meilleur confort pour tous.
CD1, plage 14.
L'envers de l'Agglo, toujours plus près des étoiles, au planétarium.
CD1, plage 15.
Figure d'Agglo, Betty Mercier, une énergie positive contre la maladie.
CD2, plage 16.
Dossier, budget 2013, au service des habitants et de l'emploi.
CD2, plage 17.
Les enfants de l'Agglo, programme libre à la patinoire Vegapolis.
CD2, plage 18.
L'Agglo, c'est nous.
CD2, plage 19.
Balade Agglo, culture et jeunesse, anime Saint-Bresse.
CD2, plage 20.
Plaisir d'Agglo.
CD2, plage 21.
Le goût de l'Agglo, tartelette aux poireaux et aux blettes.
CD2, plage 22.
Jean-Pierre Moore, président de la communauté d'agglomération de Montpellier, signe l'édito. Montpellier doit avoir sa place sur la carte des territoires nationaux et européens, nous dit-il.
Demain, les grandes agglomérations françaises se transformeront en métropoles. C'est la volonté du gouvernement. François Hollande lui-même l'a rappelé il y a quelques mois lors des états généraux de la démocratie territoriale au Sénat devant les élus locaux. L'idée est de créer dans le pays de véritables pôles d'attractivité européens. Ce projet s'inscrit dans la réforme des collectivités locales qui sera examinée au cours des prochains mois. Si je me bats pour que notre territoire devienne une de ces métropoles, ce n'est pas de la mégalomanie ni une lubie, c'est une impérieuse nécessité. Nous n'avons aujourd'hui plus le choix. Comme Lyon, Marseille et Toulouse, Montpellier doit avoir sa place sur la carte des territoires nationaux et européens. En 30 ans d'innovation, de compétitivité économique, d'audace, ce territoire est devenu l'un des plus attractifs de l'Hexagone, que choisissent plus de 4500 nouveaux habitants chaque année. Nous bénéficions d'un tissu d'entreprises dynamiques, de compétences remarquables et d'un énorme potentiel de recherche. Il y a ici un parfum de performance et d'excellence. Le territoire et ses habitants s'inscrivent aujourd'hui dans un élan remarquable. Notre responsabilité est de soutenir ce mouvement permanent, de l'amplifier même. Notre territoire doit continuer à être un laboratoire où émergent la créativité et les talents. Il est hors de question de voir disparaître toutes ces pépites que recèle notre agglomération, de les voir s'expatrier vers d'autres grandes villes voisines, faute d'ambition métropolitaine pour notre territoire. Nous devons continuer à créer les conditions de leur réussite. Cette métropole, nous la bâtirons grâce au dynamisme de nos 31 communes qui rendent notre intercommunalité plus forte aux côtés du département, de la région. Toutes ces collectivités ont leur place, leur raison d'être au service des habitants. Ce projet de métropole doit être partagé. Sa réussite nécessite l'adhésion de tous dans le respect de chacun. J'ai beaucoup échangé ces dernières semaines avec les maires de Montpellier Agglomération sur cette perspective de développement qui suscite chez certains des craintes, notamment en matière d'urbanisme. C'est pourquoi j'ai proposé que soit porté devant l'Assemblée nationale un amendement sur la question des métropoles, afin que cette compétence soit optionnelle et que l'autorité communale demeure en matière d'instruction des permis de construire. D'autre part, par le biais des contractualisations, j'ai proposé que nous collaborions efficacement avec les autres collectivités dans leur domaine de référence. Ce pourrait être le cas, par exemple, pour la compétence solidarité avec le département, collectivité référente en la matière. J'en suis convaincu, seule l'évolution vers une métropole doit nous permettre de continuer à exister sur le pourtour méditerranéen, mais cette métropole, nous la bâtirons intelligemment, collectivement, au nom de l'intérêt général.
Zoom sur l'agenda du président. Le 13 mars, Jean-Pierre Moore sera présent au MIPIM, le Salon international des professionnels de l'immobilier, au Palais des Festivals de Cannes.
Rubrique L'agglo et vous. Plus d'échanges en ligne avec l'agglomération. Afin de se rapprocher toujours plus des préoccupations des citoyens et de répondre au mieux à leurs attentes, Montpellier Agglomération poursuit sa stratégie de présence sur le net. De nouveaux dispositifs permettront d'échanger avec les internautes et de mettre en valeur leurs idées.
Plus de 2000 messages ont déjà été postés depuis le lancement du site internet de la conversation citoyenne par Montpellier Agglomération en octobre 2011. Cet espace de partage et d'échange d'idées pour l'agglomération de demain, plébiscité par les internautes, propose désormais de nouvelles fonctionnalités pour une meilleure interaction. Ainsi, les internautes ont la possibilité de commenter leurs idées, les partager et y adhérer grâce à un système d'onglets « J'aime » ou « Je n'aime pas ». Un fil d'actualité est également présent sur la page d'accueil du site. Il regroupe les informations quotidiennes de Montpellier Agglomération ainsi que l'agenda des prochaines concertations publiques organisées par la collectivité. Avec le projet Ose Montpellier Nature Urbaine, la ligne 5 du tramway au printemps ou la question du service de l'eau en mai, l'année 2013 sera ponctuée de nombreuses consultations auxquelles les habitants du territoire seront directement associés.
La conversation citoyenne est présente sur Internet, mais aussi dans les 11 maisons de l'agglomération du territoire. Depuis cet été, des bornes interactives et des urnes sont installées sur place, où les habitants sont invités à partager leurs idées. C'est avec la compréhension du monde de demain, l'écoute d'autrui, la contribution de chaque habitant et la mise en synergie de chacune des forces vives qui composent le territoire que se dessinera l'agglomération de demain, assure Jean-Pierre Moore, président de Montpellier Agglomération. Postez dès maintenant votre souhait pour une agglomération 2020 audacieuse.
Plus d'infos sur le www.monaglo2020.com.
L'agglo à chaud. L'agglomération débarque sur Twitter. Après Facebook en 2011, Montpellier Agglomération investira Twitter début mars, un outil de proximité pour informer les habitants en temps réel et en 140 caractères sur les actualités et les projets portés par leur collectivité. Un hashtag dédié à la conversation citoyenne, hashtag CC2020, a d'ailleurs été spécialement créé pour ces deux plateformes.
Vos questions à un élu. Le mois dernier, Jean-Pierre Moore, président de Montpellier Agglomération, s'est prêté le premier à l'exercice. Tous les troisièmes jeudis du mois, un élu de Montpellier Agglomération répondra en vidéo aux questions posées par les internautes sur la page Facebook de Montpellier Agglomération. En amont, les internautes proposeront plusieurs questions et voteront pour celles qu'ils souhaitent voir posées à l'élu via une application sur la page Facebook Montpellier Agglomération officielle. Prochain rendez-vous le 21 mars avec Nicole Bigas, vice-présidente chargée de la culture.
Le conseil d'agglomération en direct. Dès le 21 mars, Montpellier Agglomération diffusera son conseil d'agglomération en direct sur montpellier-agglo.com, un dispositif inédit qui permettra aux habitants du territoire de suivre en temps réel les décisions prises par les conseillers d'agglomération. Le lendemain, un résumé de la séance ponctué d'interviews d'élus sera disponible sur le site internet.
L'énergie verte de l'agglomération. 100% de la consommation électrique de notre collectivité est issue d'énergie renouvelable, a rappelé Jean-Pierre Moore, président de Montpellier Agglomération, lors du renouvellement du contrat signé avec Luc Lostis, directeur régional EDF Collectivité, le 8 février dernier. Ces certificats équilibre attestent que l'électricité consommée par Montpellier Agglomération est d'origine hydraulique, éolienne ou photovoltaïque. 60% de cette énergie est même produite grâce aux propres équipements de la collectivité, notamment ses 11 sites équipés en solaire photovoltaïque et l'unité de méthanisation améthyste.
Deux étudiantes des Beaux-Arts à l'honneur. Zainab Andalib de l'École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Agglomération et Nelly Monnier de l'École des Beaux-Arts de Lyon sont les deux premières lauréates du prix Félix Sabatier créé par le Musée Fabre de Montpellier Agglomération, des Écoles des Beaux-Arts et la Fondation Tiphaine. Cette récompense, attribuée par un jury de professionnels du monde de l'art, est destinée à soutenir la jeune création plastique qui se développe dans les écoles d'art, explique Nicole Bigas, vice-présidente de Montpellier Agglomération, déléguée à la culture et à l'enseignement artistique. Les deux lauréates reçoivent chacune 5000 euros et leurs œuvres seront exposées dans les galeries contemporaines du Musée Fabre à la fin du mois.
Maison de l'agglomération, les animations de mars, gratuit. LAT, du 16 au 29 mars, exposition de peinture contre-pied de Benjamin Carbone, vernissage vendredi 15 à 18h30. Villeneuve-les-Maglones, du 25 mars au 5 avril, exposition de peinture univers couleur désarticulée de Michel Ciortino, vernissage samedi 23 à 11h30.
Jean-Pierre Moore accueille Vincent Payon à l'agglomération. Le 22 février dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, était à l'hôtel de l'agglomération à l'invitation du président Jean-Pierre Moore pour une réunion avec l'ensemble des élus locaux sur la réforme des rythmes scolaires.
Cette réforme est difficile car elle change nos habitudes, mais elle sera aussi difficile dans un an. Ne tergiversons pas. C'est dans un état d'esprit qu'il a qualifié d'amical mais volontaire que le ministre de l'Éducation Vincent Payon est venu rencontrer les maires des communes de l'agglomération. Le président de Montpellier Agglomération, Jean-Pierre Moore, est venu me voir très tôt pour expérimenter cette réforme, a rappelé le ministre de l'Éducation. L'agglomération, c'est la bonne échelle pour trouver des solutions et construire collectivement, a-t-il estimé. Dès septembre 2012, Montpellier Agglomération a en effet engagé une concertation avec les partenaires concernés afin de parvenir à une mise en œuvre efficiente de cette réforme. Depuis, la collectivité a organisé plus d'une dizaine de rencontres avec les partenaires locaux afin d'accompagner les communes. Jean-Pierre Moore a rappelé de son côté son engagement « L'agglo est avec vous, ne soyons pas frileux, la réussite des enfants est un enjeu ».
Cette réforme des rythmes scolaires, qui est un des piliers de la refondation de l'école, prévoit dans le primaire des semaines de 4 jours et demi travaillés, dont le mercredi matin, avec des journées d'enseignement réduites de 45 minutes en moyenne, de façon à mieux respecter les rythmes naturels des enfants. Les communes, en charge des activités périscolaires, ont jusqu'à la fin du mois pour décider de mettre en place la réforme dès la rentrée 2013 ou la repousser, à titre d'exception, à la rentrée 2014. Celles qui s'engagent dès maintenant bénéficieront d'une aide de l'État de 50 à 90 euros pour les aider à redéployer les activités périscolaires existantes et en proposer de nouvelles.
1 160 000 euros. C'est la subvention attribuée par Montpellier Agglomération au GIHP, Groupement d'insertion pour les handicapés physiques, en 2013, une hausse de 7,9%. Le 8 février, Jean-Pierre Moore, président de Montpellier Agglomération, se rendait au siège de cette association qui se bat pour la reconnaissance des personnes handicapées. Le soutien de la collectivité permet notamment de leur proposer un service de transport composé de 29 minibus spécialement aménagés pour les fauteuils roulants, facilitant les déplacements dans l'agglomération.
Athlétisme, deux podiums en bronze. Ils étaient 7 athlètes du Montpellier Agglomération Athlétique Méditerranée a participé au championnat de France élite en salle les 16 et 17 février dernier à Aubière, en Auvergne. Deux d'entre eux sont montés sur la troisième marche de podiums nationaux, Marine Vialtaverne en longueur, 6,15 m, et Atina Bouakira sur le 1500 m en 4 minutes 33 secondes 70 centièmes. Une belle satisfaction pour ce jeune club qui monte.
la tournée du FISAGLO. Rendez-vous samedi 23 mars à Pignan et samedi 6 avril à Castelnau-le-Lez pour les deux prochains FISAGLO. Ces événements sportifs gratuits sont organisés tout au long de l'année par Montpellier Agglomération sur les skateparks du territoire. Ils permettent aux riders locaux de se qualifier pour le FIS Montpellier qui se tiendra du 7 au 12 mai prochain.
Des conférences qui font le buzz. La deuxième édition de la conférence internationale TEDx Montpellier se déroulera le 15 mars à la faculté de médecine en partenariat avec Montpellier Agglomération. Elle réunira près de 300 personnes qui débattront sur le thème e-médecine et prospectives humaines et sera retransmise gratuitement en direct sur Internet. L'an dernier, la première édition, qui s'est tenue au musée Fabre, a connu un large succès. 18 990 personnes étaient connectées pour suivre cet événement importé des États-Unis, où des personnalités de toutes professions sont réunies pour discuter en public de sujets qui les passionnent. Plus d'infos sur le www.tedxmontpellier.com.
Montpellier Unlimited, version papier et web. Le 25 mars, le Planétarium Galilée accueillera la deuxième soirée des ambassadeurs de Montpellier Unlimited. Ils sont aujourd'hui près de 500 femmes et hommes aux côtés de Montpellier Agglomération à soutenir le développement du territoire et à le faire rayonner nationalement au-delà de ses frontières. Un site internet et un magazine participent également à la promotion de l'agglomération et de sa stratégie économique. Sorti en février, Montpellier Unlimited, le magazine, bilingue français-anglais, compte 68 pages d'informations et de reportage. Envoyé aux entrepreneurs, il est publié deux fois par an et peut être consulté sur montpellier-unlimited.com. Il est complété par Montpellier Unlimited e-news, une newsletter également bilingue, disponible sur le net cinq fois par an.
Des collectivités éco-responsables. Des éco-gobelets réutilisables distribués aux communes de l'agglomération. C'est une des nombreuses actions récemment mises en place pour réduire les déchets sur le territoire. Afin de poursuivre sa politique environnementale et de créer une véritable synergie avec ses communes, Montpellier Agglomération a signé avec ces dernières la charte des collectivités éco-exemplaires de l'ADEME. Elles s'engagent ainsi, avec le soutien de l'agglomération, à prendre des mesures concrètes dans leurs services et au cours de leurs manifestations.
Montpellier Petit Bar Futsal, des amateurs qui jouent dans la cour des grands. Leader régional depuis 1998, le Montpellier Petit Bar Futsal a décroché l'an dernier sa place pour la première division. À ce titre, il est cette année subventionné par Montpellier Agglomération comme 23 autres clubs d'élite sur le territoire. Le 19 février, Jean-Pierre Moore est allé à la rencontre de l'équipe pour inaugurer un bus flambant neuf acquis avec l'aide d'un sponsor privé qui facilitera leur déplacement aux quatre coins de la France.
Tweet Aglo. Jeune talent, vous êtes un musicien âgé de 18 à 30 ans, inscrivez-vous sur le www.lejam.com jusqu'au 14 avril au premier tremplin de jam pour bénéficier d'un an de cycle d'études. Emploi. Les 14 et 15 mars, Montpellier Agglomération participe au salon TAF 2013, Travail, Avenir et Formation, organisé par la région Languedoc-Roussillon au Parc des Expositions. Mémoire. Les archives du Théâtre des 13 Vents ont été mises en ligne sur le www.lesarchivesduspectacle.net/13v, un site dédié à la mémoire du spectacle vivant. Matériel informatique, après Castries, Informatique Plus ouvre une boutique de vente solidaire au 2 rue Jacques Draparneau à Montpellier, des ordinateurs à partir de 30 euros. Cuisine, Joris Bidjenjik, 28 ans, sous-chef des frères Pourcel au Jardin des Sens à Montpellier, fait partager ses talents culinaires dans l'émission Top Chef sur M6.
Faut-il imposer des quotas de femmes ? C'est le titre de votre rubrique Débats et des idéaux de votre magazine Montpellier Agglo du mois de mars 2013.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Inscrit dans la Constitution depuis 2008, ce principe peine à s'appliquer dans la réalité, avec seulement 20% de femmes à la direction des entreprises du CAC 40, étude Deloitte 2011, Women in the Boardroom, 27% de députés, des salaires inférieurs de 25% en moyenne, source Ministère du Travail d'Art 2012. Faut-il imposer des quotas pour parvenir à l'égalité ? Les réponses de deux femmes engagées dans l'égalité femmes-hommes. Débat avec Noëlle Aubégy, chef d'entreprise, présidente du Centre régional pour l'entrepreneuriat au féminin, déléguée régionale de l'association Femmes chefs d'entreprise, dont l'objectif principal est l'obtention de mandats dans les instances économiques et sociales, et avec Christa Dumas, responsable de la mission Égalité Femmes-Hommes à l'Université Montpellier 3, sociologue spécialisée dans l'étude du genre. Faut-il imposer des quotas de femmes pour parvenir à l'égalité ?
Noëlle Aubégy, sur le principe, je suis contre. Je suis pour l'égalité, mais nommer une femme parce que c'est une femme ne me paraît pas souhaitable. En tant que chef d'entreprise, quand je recrute, je privilégie la compétence sur la parité. À compétence égale, je prendrai la personne qui me permet d'avoir une équipe équilibrée. Mais ce n'est pas toujours possible parce que certains métiers sont très féminisés, d'autres moins. La parité se heurte à la réalité. En politique, en revanche, je crois que les femmes n'ont pas le choix. Sans les lois sur la parité, leur représentation n'aurait pas progressé aussi vite. Christa Dumas. Les lois récentes qui imposent 40% de femmes administratrices d'ici 2020 dans les très grandes entreprises et dans la haute fonction publique sont une manière de montrer que c'est possible. Mais cela doit rester transitoire. Pour moi, l'objectif n'est pas d'avoir 50% d'hommes et 50% de femmes dans tous les domaines. J'ai un idéal humaniste d'égalité et de liberté. Chacun et chacune doit pouvoir choisir et se réaliser. Les quotas peuvent être un moyen, pas une fin.
Pourquoi les femmes peinent-elles à s'imposer dans les instances de décision ?
Noëlle Aubégy. Je dirais plutôt qu'on progresse. On a environ 30% de femmes chefs d'entreprise en France. Il serait logique qu'elles soient représentées à 30% dans les mandats d'entreprise et patronaux, au MEDEF, dans les CCI, aux tribunaux de commerce. En Languedoc-Roussillon, ces mandats comptaient 20% de femmes en 2011 contre 7% il y a 10 ans. Des formations ont été mises en place pour aider les femmes à accéder à ces postes de décision qui ont aussi bénéficié aux hommes. Et cela s'est fait sans la contrainte de la loi. Christa Dumas. Il y a déjà une grande méconnaissance des inégalités femmes-hommes. Beaucoup de jeunes femmes pensent que le féminisme n'est plus utile car on a l'égalité en droit. Elles ne perçoivent pas qu'on est loin de l'égalité réelle. On le voit dans les partis politiques qui préfèrent payer des amendes plutôt que de placer des femmes en position éligible. Nous sommes encore pétris de représentations inégalitaires.
Y a-t-il suffisamment de femmes qui peuvent prétendre aux postes à responsabilité et en ont-elles envie ?
Noëlle Aubégy. Certainement, beaucoup de femmes culpabilisent en raison de leurs responsabilités familiales. Souvent aussi, les femmes ont besoin de se sentir vraiment sûres d'elles. Mais les mentalités évoluent. Les jeunes femmes se posent moins la question de leurs compétences et les jeunes hommes travaillent plus facilement sous la direction d'une femme que leur aînée. Les hommes aussi, de plus en plus, veulent concilier vie professionnelle et familiale. Christa Dumas. Les femmes sont aussi compétentes que les hommes, elles réussissent même mieux leurs études, mais elles ont moins été éduquées à l'ambition et à la compétition. C'est autour de la maternité que tout se joue. Dans le monde professionnel, la maternité réelle ou éventuelle est disqualifiante pour les femmes. Dans ce cas, c'est une discrimination qui doit être punie. Les femmes n'ont pas à sacrifier leur vie professionnelle au moment où les enfants arrivent, pas plus que les hommes.
De quelle autre façon peut-on agir pour la promotion des femmes à des postes à responsabilité ?
Noëlle Aubégy. Je crois en l'exemplarité. Les modèles de femmes dirigeantes, avec une vie complète et épanouissante, peuvent aider à montrer que c'est possible. Les réseaux de femmes, comme les associations de femmes créatrices d'entreprises, sont aussi un moyen de progresser. Il faut aussi les aider à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale en développant les crèches d'entreprise ou en assouplissant le travail pendant la maternité avec du travail à distance ou du temps partiel. Par ailleurs, les hommes doivent davantage partager les tâches familiales et domestiques. Christa Dumas. Il faut éduquer les enfants dès la maternelle pour en finir avec les représentations inégalitaires. En attendant ces générations futures, il est très important de mieux articuler les temps professionnels et privés au niveau de la garde d'enfants, des horaires, en supprimant les réunions de cadres le soir tard. Tout le monde y gagnera, les femmes comme les hommes, et je ne crois pas qu'il faille monter les uns contre les autres.
Votre rubrique « Événements de l'Aglo » pour titre « 12 insoumises s'exposent pour les droits des femmes ». En 2013, Montpellier Agglomération accentue sa politique en faveur de l'égalité femmes-hommes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la collectivité organise du 8 au 29 mars « Insoumises, combat de femmes d'aujourd'hui », une exposition de photographies sur la place du XXe siècle à Odysseum, afin de rendre hommage à quelques-unes de ces militantes de la condition féminine.
L'an dernier, lors de la Journée internationale des droits des femmes, Jean-Pierre Moore, président de Montpellier Agglomération, a présenté un programme d'action 2012-2014 pour faire avancer l'égalité femmes-hommes sur le territoire. Une série de 8 propositions issues du cycle de réflexion « Femmes dans l'agglo » qui sont en cours de réalisation. 3 d'entre elles ont été particulièrement saluées par Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, lors de sa venue en septembre dernier. Ainsi, Montpellier Agglomération participe, en partenariat avec l'Amicale du NID, à la réalisation d'une étude sur la prostitution étudiante et organise des rencontres et des projets pour favoriser l'entrepreneuriat au féminin. Une maison de l'égalité, lieu d'accueil et de rencontres pour les femmes du territoire, est également à l'étude.
Cette année, Montpellier Agglomération a notamment choisi de rendre hommage à 12 personnalités, des femmes aux origines diverses réunies symboliquement sur la place du XXe siècle autour des statues des grands hommes. Cette exposition photographique donne un coup de projecteur sur les vies, les combats et les réalisations de ces insoumises en faveur de la place des femmes dans la société. Encore aujourd'hui, en France et dans le monde entier, les femmes souffrent de fortes inégalités salariales, de violences conjugales et d'une faible représentation aux postes à responsabilité. Nous aussi, sur notre territoire, nous devons agir, nous devons poursuivre notre bataille pour que l'égalité femmes-hommes ne soit plus seulement une belle idée, mais une réalité, explique Jean-Pierre Moore, président de Montpellier Agglomération. Avec des lectures, des films, des pièces de théâtre et des conférences-débats, Montpellier Agglomération a mis sur pied tout un programme d'animation dans ses équipements tout au long du mois de mars.
Plus d'infos, retrouvez tous les programmes sur montpellier-aglo.com.
Manar al-Sharif, Arabie Saoudite. Militante du mouvement Women to Drive en Arabie Saoudite pour que les femmes saoudiennes prennent le volant le 17 juin 2011 alors qu'elles n'y sont pas autorisées par la tradition, risquant la prison. Après avoir bravé cet interdit, elle a été arrêtée par la police saoudienne.
Alem Belhadj, Tunisie. Présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates, ATFD, en 2012, elle a reçu le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, décerné à l'ATFD grâce à son action militante en faveur de la promotion des droits des femmes et son rôle clé dans la révolution tunisienne.
Norma Cruz, Guatemala. À la tête de la fondation Sobrevivientes, une organisation de défense des droits des femmes, elle fournit un appui psychologique et une aide juridique aux femmes victimes de violences au Guatemala. Malgré les nombreuses menaces, elle poursuit aujourd'hui son combat dans ce pays où chaque jour au moins 2 femmes sont tuées.
Eve Ensler, États-Unis. Cette dramaturge et féministe américaine est surtout connue pour sa pièce de théâtre « Les monologues du vagin » reprise dans le monde entier. La tradition veut que cette pièce soit jouée bénévolement et les recettes reversées à une association qui lutte contre les violences faites aux femmes.
Yana Matei, Roumanie. Entre 1999 et 2010, elle a lutté au péril de sa vie pour arracher plus de 420 mineurs à la prostitution et contre le trafic d'êtres humains. Pour son combat acharné, cette militante roumaine a été élue européenne de l'année 2010 par le Reader Digest.
Lema Roberta Gbowee, Liberia. En 2003, elle est à l'origine d'une grève du sexe où les femmes de toutes les confessions religieuses se sont refusées aux hommes tant que la guerre civile se poursuivait. Avec Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente d'une nation africaine, elle obtient le prix Nobel de la paix en 2011.
Guo Jianmei, Chine. Fondatrice de l'ONG Études féministes en droit et d'un centre d'aide juridique qui œuvre à l'amélioration de la condition des femmes en Chine. En 2011, elle a été la première lauréate chinoise de l'International Women of Courage Award qui lui a été remis par Hillary Clinton.
Sampa Pal Devi, Inde. En 2006, elle a fondé un groupe d'activistes politiques, les Sari Roses, dans l'une des provinces indiennes les plus pauvres. Organisée comme un gang, le groupement qu'elle dirige milite pour l'interdiction du mariage des enfants, l'amélioration du statut des femmes et la lutte contre la criminalité et la corruption dans la région.
Yvette Roudy, France. Députée européenne et ministre des droits de la femme dans les années 80 sous le premier septennat de François Mitterrand, elle est à l'origine de 2 lois célèbres, la loi Roudy sur le remboursement de l'IVG en 1982 et la loi Roudy pour la parité de juillet 1983 sur l'égalité de l'homme et de la femme.
Mariam Lamizana, Burkina Faso. La croisade qu'elle a menée contre l'excision en Afrique et dans le monde l'a portée jusqu'au poste de ministre des Affaires sociales du Burkina Faso. Mais c'est en tant que secrétaire permanente du Comité national de lutte contre la pratique de l'excision entre 1997 et 2000 qu'elle s'est le plus distinguée.
Yasmina Perpik, Bosnie-Herzégovine. Juge, avocate, cofondatrice d'Avocates sans frontières, distinguée femme de l'Europe 2012, elle accompagne juridiquement les femmes victimes de violences sexuelles dans les régions instables et en proie à la guerre, notamment au Kosovo.
Sima Samar, Afghanistan. En 2012, elle reçoit le Right Livelihood Award pour son combat en faveur des droits des femmes dans une des régions les plus complexes et dangereuses du monde. Elle a été la première ministre des droits des femmes de l'histoire de l'Afghanistan en 2011. Mais de multiples menaces de mort l'ont contrainte à démissionner. Dans votre rubrique « Décision d'agglo », retrouvez le détail du Conseil d'agglo du mardi 12 février. Le prochain Conseil d'agglomération aura lieu le jeudi 21 mars à 18h. Emploi, décryptage par Jean-Pierre Moore, président de la communauté d'agglomération de Montpellier.
Dans un contexte de crise économique, les très petites entreprises, TPE, moins de 20 salariés, de l'artisanat et du commerce, ont un réel besoin d'accompagnement et de financement. Le territoire compte en effet 15 600 entreprises, déclarant un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros. C'est pourquoi j'ai annoncé, puis très rapidement mis en place, un fonds de soutien et d'accompagnement des très petites entreprises artisanales et commerciales qui va contribuer à maintenir l'emploi dans ce secteur. Il attribuera des aides financières ponctuelles et individuelles à l'investissement matériel sous conditions de préservation ou de création d'emplois. Ce fonds sera complémentaire des initiatives déjà mises en œuvre par les communes membres de l'agglomération à travers le FISAC, Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, des subventions, des manifestations, des actions de promotion ou de location de locaux commerciaux. Il est mis en place avec l'accord de la région Languedoc-Roussillon qui a accepté la modification de l'intérêt communautaire.
Emploi, un nouveau cluster autour d'Intel. Installé à Montpellier depuis novembre 2011, le groupe américain Intel, numéro 1 mondial du circuit intégré, lance un projet R&D autour de la création de logiciels open source pour terminaux mobiles. Ce projet permet de préserver 3 emplois et d'en créer 8 nouveaux d'ici fin 2013 à Montpellier. Par ailleurs, Intel prévoit de collaborer avec des entreprises innovantes telles que Aquafadas et Awox, issues du BIC de Montpellier Agglomération, IBM, M-Star et Silcan, mais aussi des centres de recherche, l'IRM, le CNRS et l'école Polytech. Dans le cadre de son soutien au développement économique et à l'emploi, Montpellier Agglomération participe au développement de ce projet d'innovation à hauteur de 50 000 euros, également financé par la région, le département et le fonds européen FEDER.
Écocité, nouvelle phase de concertation. Le projet urbain labellisé Écocité de Montpellier à la mer, sur 2500 hectares, est développé en secteurs opérationnels qui font chacun l'objet de concertations avec la population. Après le secteur Écopole, sur l'ancienne ZAC de l'aéroport, la concertation est lancée en mars sur le secteur stratégique des zones commerciales de Latte et de Pérol. Cette deuxième ZAC s'étend sur 100 hectares autour de deux pôles majeurs, Grand Sud Carrefour et Plein Sud Bir Hakeim. L'objectif est de redéployer les surfaces commerciales dans le cadre d'un nouvel urbanisme durable. Le public pourra consigner ses observations dans des registres mis à disposition dans les mairies de Pérol et de Latte et à l'hôtel de l'agglomération ou sur le site internet. Plus d'infos sur le www.monaglo2020.com.
Open Data, 6 nouvelles communes sur la plateforme de l'agglomération. Les communes de Clapier, Cournonsec, Latte, La Vérune, Pérol et Saint-Bresse rejoignent la plateforme Open Data développée par Montpellier Agglomération. L'ouverture des données, ou Open Data, consiste à mettre à disposition des données publiques aux entreprises et aux citoyens afin de faciliter leur réutilisation. Par exemple, les horaires d'ouverture des piscines peuvent être utilisés par le créateur d'une application mobile sur les horaires des services publics. 4 communes, Castelnau-le-Lez, Castries, Cournon-Terral et Le Cresse, bénéficiaient déjà de ces services. Toutes les informations sur data.montpellier-aglo.com.
Insertion, subvention en hausse pour l'emploi des jeunes. Montpellier Agglomération renouvelle son soutien à l'action de la mission locale des jeunes de l'agglomération de Montpellier MLJAM, et augmente sa subvention à hauteur de 410 490 euros pour 2013. La MLJAM, implantée à Montpellier, mais aussi dans les maisons de l'agglomération de Latte, Castries et Villeneuve-les-Maglones, informe et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion professionnelle. Selon Christiane Fourteau, conseillère d'agglomération et présidente de la MLJAM, de nombreux jeunes doivent d'abord résoudre des problèmes de logement ou de santé avant de pouvoir travailler, et cette demande sociale est en forte hausse en 2012. L'an passé, la MLJAM a accueilli 4110 nouvelles personnes, 3097 ont trouvé un emploi et 2222 une formation.
Les pages Portfolio, mon aglo en photo, sont consacrées au professeur David Noka, que l'on suit au fil des photos, enfant à 7, en pleine opération, posant avec le personnel du service chirurgie de l'obésité au CHRU de Saint-Éloi, lors d'un congrès organisé au Corum. Autre photographie, celle de commerçant dans une boutique du quartier des Beaux-Arts, d'une reproduction de Batista, de sa fille et de la faculté de médecine de Montpellier.
Né à 7 d'un père pêcheur et d'une mère au foyer, David Noka est devenu, à 41 ans, un chirurgien de renommée internationale dans sa spécialité, l'obésité. Dans son service du CHRU Saint-Éloi, à Montpellier, déjà 1000 patients ont été opérés avec la technique de gastrectomie en manchon, ce qui en fait un des plus importants centres en France. C'est pour son expérience, acquise à Montpellier et aux États-Unis où il s'est formé pendant un an, que David Noka est aujourd'hui sollicité dans le monde entier pour présenter cette technique qui consiste à réduire la taille de l'estomac. Une de ces opérations a récemment été filmée et retransmise à New York. Venu à la médecine un peu par hasard, après avoir longtemps rêvé d'être footballeur professionnel, David Noka est aujourd'hui investi à 100% dans son métier de chirurgien qui le passionne. Quand il ne travaille pas, il se consacre à sa famille et à ses amis et prend soin de rester connecté à ses origines.
J'ai eu une proposition pour travailler à Los Angeles, mais je reste attachée à mes racines, ma famille, mes amis, le soleil, la mer. Le CHU de Montpellier est un des 5 meilleurs de France, la faculté est reconnue. Je suis fière de travailler ici.
Professeur David Noka, chirurgien, né le 24 juin 1971 à 7.
En pleine opération, avec à gauche le professeur Jean-Michel Fabre, le chef du service chirurgie digestive, qui m'a formé. Les opérations peuvent durer plusieurs heures. C'est un métier dur, moralement et physiquement, mais passionnant. On s'y sent utile.
Avec le personnel du service de chirurgie de l'obésité au CHRU de Saint-Éloi, le système de santé français, malgré les critiques qu'il subit, est un des meilleurs du monde au niveau qualité et prise en charge.
Marie Romain et Fabien Périgaud viennent d'ouvrir les domaines qui montent sur l'avenue Saint-Lazare. Ma femme et moi aimons vivre dans le quartier des Beaux-Arts, tout y est à portée de main. Et je suis à moins de 10 minutes de l'hôpital en cas d'urgence.
Cette reproduction de Batista m'a été offerte pour mes 40 ans par mes amis d'enfance. Je les vois toujours et ils se chargent de m'aider à ne pas prendre la grosse tête.
J'ai organisé l'an passé le congrès de la Société française et francophone de chirurgie de l'obésité, SOFCO, dont je suis directeur scientifique au Corum, avec le soutien de Montpellier Agglomération et de l'Université Montpellier 1.
Mon métier est très prenant, mais j'essaie de passer du temps avec mes 3 enfants. Je joue au tennis avec mon fils. Margot, ma fille, est très impliquée dans l'opéra junior et elle m'a fait découvrir l'opéra. Elle est ici, à droite, dans la petite Renarde rusée, jouée l'an passé au Corum.
J'avais 18 ans quand je suis arrivée à Montpellier pour entrer en faculté de médecine. J'ai été responsable d'une opération pour la première fois après 11 ans de formation. Et j'ai été agrégée après 20 ans de formation. Mais quelle récompense de faire ce métier! Ma sœur est aussi médecin. Notre mère nous a beaucoup poussés à faire des études.
Attractive Aglo, une PME de l'agglomération, équipe les plus grands sportifs. Depuis janvier dernier, Zerod, une PME installée à Castries, est devenue le nouvel équipementier officiel du Montpellier Waterpolo, champion de France 2012. La jeune entreprise, qui fournissait déjà les tenues des plus grands triathlètes mondiaux, poursuit sa croissance en France et à l'international.
C'est d'abord à Latte, dans leur garage, que Pierre et Frédéric ont démarré leur activité en 2007. Zérod est l'anagramme de Dorez, le nom de famille des deux frères qui ont fondé cette entreprise. 3 ans plus tard, ils se sont installés à Castries dans de vastes locaux. Anciens triathlètes de haut niveau, ils ont voulu vivre de leur passion en lançant Zérod. Une véritable réussite. C'était un rêve d'enfant. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un coup de foudre pour ce sport et j'ai tout de suite remarqué qu'il n'y avait pas de marque dédiée 100% au triathlon, explique Pierre Dorez, champion de France junior en 2001.
Aujourd'hui, leurs équipements, reconnus dans le milieu du triathlon pour leur technicité, sont distribués dans près de 55 magasins en France et dans une quinzaine de pays à travers le monde. En lançant une ligne de maillots de bain il y a 3 ans, l'entreprise a décidé d'élargir sa gamme de produits. C'est en s'ouvrant progressivement aux sports aquatiques que les frères Dorez se sont intéressés au waterpolo. Depuis le mois de janvier, Zérod est devenu l'équipementier officiel du Montpellier Waterpolo, MWP, champion de France en titre. C'était un véritable challenge. Pendant 6 mois, nous avons travaillé pour créer un maillot de bain très résistant, adapté à la pratique du waterpolo, ainsi qu'un bonnet de poloiste conçu avec l'aide d'Andrés Aguilar, un joueur phare du MWP, précise Pierre Dorez. C'est la dimension collective de ce sport qui nous a attirés. Une ambiance qu'on ne retrouve pas dans le triathlon, plutôt individuelle et assez solitaire, ajoute Frédéric Dorez. Zérod équipe déjà de nombreux triathlètes professionnels, comme les Britanniques Jonathan et Alistair Brownlee, médaillés d'or et d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Londres. Elle collabore également avec des équipes sportives de l'agglomération, parmi elles le Montpellier Agglo Triathlon, club d'élite soutenu par Montpellier Agglomération. Malgré la concurrence redoutable des grandes marques de sport, Zérod est parvenu à se faire une place dans le milieu grâce à des produits très techniques et un design qui se démarque. On possède une bonne assise internationale en travaillant par exemple avec de grands équipementiers en contrat avec les fédérations sportives, mais nous avons aussi besoin de nous faire connaître au plan local, poursuit Pierre Dorez. Zérod compte aujourd'hui 6 salariés à temps plein et jusqu'à 12 personnes en pleine saison. Cette entreprise, où la moyenne d'âge ne dépasse pas 26 ans, réalise la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger. L'an prochain, les frères Dorez souhaitent se lancer à l'assaut du continent américain en créant une filiale aux États-Unis.
Et retrouvez plus d'infos sur le www.zerod.com/fr.
Souffle d'agglo. Athlétisme, un grand bond en avant. Avec le Montpellier Agglomération Athlétique Méditerranée, l'athlétisme fait son entrée dans la famille des sports d'élite soutenus par l'agglomération. Classé 3e du championnat de France 2012, après seulement 1 an d'existence, le jeune club affirme clairement ses ambitions. À suivre.
Sprinter, coureur de demi-fond, lanceur de marteau, sauteur, tous les soirs des 17h, c'est l'effervescence au stade Philippides. Des dizaines d'athlètes réunis au sein du Montpellier Agglomération Athlétique Méditerranée, M2AM, s'entraînent sur cette piste de haut niveau rénovée l'été dernier. Soutenu par Montpellier Agglomération, ce jeune club élite est né en 2011. Son président, Richard Descoux, ancien directeur technique national, a réussi non sans mal à réunir le monde de l'athlétisme local pour construire un club élite unique à Montpellier, capable de rivaliser avec les meilleurs en France. Contrat rempli dès la première saison.
Le 20 mai 2012, à Aix-les-Bains, sur les terres du champion Christophe Lemaître, le M2AM remportait, à la surprise générale, la 3e place des championnats nationaux interclub élite. « Nous sommes en phase de structuration », explique Richard Descoux, responsable de la formation au Krebs de Montpellier depuis 2001. Les athlètes ont répondu présents, ils ont démontré leur niveau au plan national, les collectivités nous soutiennent. Nous devons aujourd'hui être capables de passer d'un encadrement bénévole à une professionnalisation du staff et gérer notre club comme une petite entreprise. Avec plus de 1400 athlètes, le M2AM est le 2e club français en nombre de licenciés. La moitié d'entre eux évoluent dans une des 10 sections locales qui maillent le territoire, de Cournon-Terral à Villeneuve-les-Maglones. Dans leur rang, des athlètes de tous niveaux, des enfants de 6 à 12 ans de l'école d'athlétisme jusqu'aux internationaux. Parmi ces champions, le Sénégalais Mamadou Kassane, demi-finaliste au JO de Londres en 400 mètres haies, Nadir El Fassi, champion d'Europe de pentathlon en salle, Mathilde Andreau, championne de France de javelot.
Notre force, c'est notre homogénéité. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Nous avons des têtes d'affiche dans toutes les disciplines, mais aussi un réservoir de champions en devenir, apprécie Richard Descou. Depuis l'an dernier, le M2AM s'est doté d'un centre de formation. Ils sont 38 jeunes athlètes, la crème du club, à bénéficier de cette structure dirigée par Gilles Garcia. 38 filles et garçons, de cadets à espoirs, sur lesquels le M2AM bâtit son avenir. L'athlétisme est désormais un sport de plus et pas le moindre, où un club aux couleurs de l'agglomération figure sur les plus hautes marches des podiums.
Plus pratique, Montpellier Athlétique Agglomération Méditerranée, M2AM, Stade Philippides, téléphone 04 34 35 43 84, un site internet le www.m2am.org. À partir d'avril, des petits meetings seront organisés les vendredis soirs au stade. Le samedi 22 juin, meeting inaugural du M2AM.
Votre rubrique « L'agglo durable » de votre magazine Montpellier Agglo du mois de mars 2013 a pour titre « 32 propositions citoyennes pour optimiser les services de l'eau ». Depuis le 20 février, les citoyens participant à la concertation sur l'eau ont rendu leurs propositions. Une série de 32 recommandations pour améliorer les services de l'eau sur le territoire. Montpellier Agglomération a choisi une forme reconnue et transparente de concertation qui place l'avis des habitants au cœur du débat.
Montpellier Agglomération, en collaboration avec l'ISOD, un cabinet d'experts spécialisés dans les concertations publiques, a constitué un panel de 18 citoyens. Ces habitants du territoire ont été sélectionnés scientifiquement selon une méthode utilisée en France et à l'international depuis la fin des années 80. En 2012, l'Islande, un état de 320 000 habitants, a par exemple sollicité 25 personnes dans le cadre d'un comité de citoyens pour participer à la rédaction de sa nouvelle constitution. En France, l'Institut Montaigne, un think tank, a également fait appel à 25 citoyens pour sa concertation sur l'avenir du système de santé français. Cette méthode ne vise pas à représenter quantitativement la population du territoire, mais à représenter de la manière la plus réaliste sa diversité selon les caractéristiques socio-démographiques de l'agglomération, l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, etc., et ainsi s'assurer de prendre en compte les différents avis sur chacune des décisions prises, explique Clément Genet, cofondateur de l'ISOD. Des étudiants, un chef d'entreprise, des retraités, la diversité de nos profils, c'était un bon moyen pour nous compléter les uns et les autres dans nos réflexions, ajoute Christine Castelcouré, retraitée de Saint-Jean-de-Védas, qui a participé à cette concertation.
Entre le 17 novembre et le 19 janvier, cette concertation citoyenne s'est déroulée en plusieurs temps. Pendant la phase de préparation, les citoyens ont suivi une véritable formation accélérée. Les deux premiers week-ends de travail ont été rythmés par des exposés de présentation sur le cycle de l'eau et des visites sur le terrain, comme à la station d'épuration Maera et à la station Avias de la source du Lez. Ensuite, la phase de débat s'est ouverte avec l'audition d'une quinzaine d'experts nationaux et locaux comme Au Secours 34, l'agence locale de l'énergie ou l'UFC Que Choisir, sélectionnés directement par les citoyens parmi la trentaine d'experts volontaires pour participer à cette concertation. Avant leur venue, nous avions défini une vingtaine de thèmes et de questions à aborder. Les experts nous ont apporté des compléments d'information afin de mieux saisir les contours de chaque sujet et surtout de produire des propositions réalistes selon le contexte local, explique Haji Almadi, artisan montpelliérain participant à la concertation. Le 19 janvier, le comité de citoyens s'est réuni pour la dernière fois afin d'élaborer ses recommandations. Une grande place a été accordée à la réflexion et à notre avis d'utilisateur quotidien. Nous avons pu dégager des propositions en fonction des centres d'intérêt des uns et des autres et les structurer dans le cadre d'un véritable plan d'action, explique une des participantes, Christine Anis, employée de bureau. Au total, 32 propositions sont consignées dans l'avis de la conférence de consensus qui sera rendue publique lors du Forum de l'eau, un événement ouvert à tous le 25 mai prochain au Quorum.
Les quatre axes prioritaires. Au terme de cette concertation, le panel de citoyens a adressé collectivement aux élus de Montpellier Agglomération des avis et des recommandations, dont quatre axes prioritaires pour améliorer les services de l'eau sur le territoire. Pédagogie et information. Informer et former sur les modes de consommation, faire évoluer les pratiques individuelles et modérer la consommation. communiquer auprès du grand public afin de favoriser la préservation de l'environnement, informer les usagers sur la gestion de l'eau calcaire.
Exemplarité. Viser l'exemplarité en termes de rejet. Améliorer la qualité du réseau de l'eau potable et de l'eau usée et la gestion des fuites. Agir sur la construction des nouveaux logements en définissant des normes haute qualité de l'eau, récupération de l'eau pluviale, diminution des impacts sur le milieu, préservation des captages locaux, etc.
Transparence. Informer de manière claire les usagers. Donner un espace de parole pour les associations d'usagers afin de mettre en place des dispositifs de consultation des usagers.
Solidarité. Créer des mécanismes financiers d'aide pour assurer l'accès à l'eau pour tous.
L'agglo en scène. L'école d'art dramatique écrit une nouvelle page. L'école nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier, ENSAD, aussi appelée Maison Louis Jouvet, est une des 11 écoles nationales qui délivrent le diplôme professionnel de comédien. Cette institution financée par Montpellier Agglomération et l'État accueille chaque année 14 élèves lors d'un concours organisé en juin. Son nouveau directeur, Richard Mitou, est plein de projets pour cette maison où il a lui-même été formé.
Au cœur de l'Écusson, dans un superbe bâtiment du XVIIe siècle rénové en 2002 par Montpellier Agglomération, la maison Louis Jouvet est un lieu ouvert sur la ville. Son jardin est public et les élèves y répètent souvent « été comme hiver » à la vue de tous. Jouer devant un public, c'est l'essence même du métier, affirme le directeur de l'école Richard Mitou. Ici, contrairement à beaucoup d'autres écoles, les élèves sont immédiatement placés en situation réelle. Dès la seconde année, ils jouent devant des professionnels. À la fin de la troisième et dernière année, ils se produisent devant le public dans une pièce mise en scène par un des artistes intervenants. L'an passé, c'était les numéros cabaret par Richard Mitou qui a fait belle impression au Printemps des comédiens. L'édition 2013 du festival en juin prochain accueillera de nouveau une production de l'école mise en scène par Cyril Test, l'un des intervenants de l'école.
Richard Mitou a été nommé directeur de l'ENSAD en octobre dernier par Jean-Pierre Moore, président de Montpellier Agglomération, et Aurélie Filippetti, ministre de la Culture. Après avoir joué pendant 15 ans sur les plus grandes scènes nationales et à l'étranger, cet ancien élève sorti en 1997 se consacre désormais entièrement à l'ENSAD, où il intervient déjà depuis 9 ans. Comme lui, Marion Aubert, Jean Varela, David Alaya, pour ne citer qu'eux, font partie des anciens qui mènent une belle carrière dans le théâtre contemporain. Des plus jeunes sont en train de percer, et parfois au cinéma, comme Victoire Belzy de la promotion 2007, qui jouera Fanny dans une nouvelle trilogie de Pagnol tournée par Vincent Auteuil.
L'insertion professionnelle des élèves est une des priorités de l'école qui dispose d'un fonds dédié. 80% de nos élèves deviennent comédiens, les autres restent généralement dans des activités culturelles ou artistiques, explique Richard Mitou. Il a entrepris de développer la visibilité de l'école à travers le nouveau site internet qui hébergera bientôt des vidéos où les anciens élèves dévoilent leurs talents, mais aussi de nouveaux partenariats noués avec des écoles du bassin méditerranéen et les festivals tels que Montpellier Danse et Cinémed. Côté pédagogie, Richard Mitou s'inscrit dans la continuité de la direction d'Ariel Garcia Valdés, son père de théâtre, grande figure du métier, qui a dirigé l'école de 1998 à 2012. Je reste fidèle à sa vision, ce sont les élèves qui font l'école et non l'école qui fait des élèves. Brice Carrois, sorti en 2007, confirme « Ici, on a les moyens de faire ce qu'on veut faire. C'est cette école que je voulais faire parce que je voulais être libre. »
Et retrouvez plus d'infos sur le www.ensad-montpellier.fr.
L'agglo demain, un meilleur confort pour tous. En juin 2012, Montpellier Agglomération a lancé un concours pour la rénovation et la couverture du stade de la Mausson, Mondial 98. C'est le projet du cabinet d'architectes montpelliérain A+ Architecture qui a été retenu le 6 février dernier. 50 millions d'euros seront investis par la collectivité sur la période 2014-2017. Entretien avec Jacques Martin, vice-président de Montpellier Agglomération, délégué au sport, conseiller municipal de Montpellier. Pourquoi la rénovation du stade de la Mausson est-elle nécessaire ?
De la tribune Méditerranée à la tribune au Languedoc, notre volonté est d'offrir à tous le même confort, quel que soit le prix du billet dans cette enceinte inaugurée en 1972 et rénovée en 1998. La couverture prévue de la totalité des tribunes protégera désormais l'ensemble des 33 000 spectateurs des intempéries. De nouveaux espaces de pause seront créés, buvettes, sanitaires, etc., plus proches des tribunes, et une meilleure accessibilité sera également proposée aux personnes à mobilité réduite dans l'ensemble du stade, sans distinction de tribune ou de place. L'agglomération s'est donné les moyens de faire face à cet investissement grâce à un lissage de son financement dans le temps, adapté à la conjoncture économique actuelle.
Quelles sont les particularités architecturales de ce projet ?
Nous avons retenu le projet d'A+ Architecture pour l'image originale, ambitieuse et contemporaine qu'il prévoit de donner au stade. La tribune latérale Méditerranée sera recouverte, ainsi que la grande tribune Égoual qui sera protégée par une impressionnante structure fixée à un mât de 76 mètres de haut, un véritable marqueur urbain intensifié par de nouvelles couleurs. Un ruban, blanc et orange, enveloppera l'enceinte et ses tribunes, désormais liées, et offrira au stade une unité architecturale. Montpellier Agglomération se donne une fois de plus la capacité d'offrir un équipement de qualité aux spectateurs et à ses équipes sportives.
Ce projet a également un caractère durable.
Oui, Montpellier Agglomération reste fidèle à sa politique en faveur du développement durable. 670 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques seront installés sur le toit du gymnase Louc-Lapas, situé à proximité de l'enceinte, l'équivalent de la consommation énergétique d'une centaine de foyers. Les eaux pluviales seront également récupérées pour venir alimenter l'ensemble des sanitaires du stade. Les travaux débuteront au premier semestre 2014 pour une livraison prévue en 2017.
L'envers de l'agglo, toujours plus près des étoiles au planétarium Galilée. Dans cet équipement de Montpellier Agglomération dédié à la découverte des mystères de l'astronomie pour les petits et les grands, plus de 900 projections sont organisées chaque année. Un voyage sidéral rendu possible par un dispositif technique ultra moderne et une équipe de passionnés.
Avec ses 15 mètres de diamètre, il est l'un des 4 plus grands de France. Le dôme du planétarium Galilée est alimenté en images par 6 vidéoprojecteurs. C'est depuis le poste de projection, situé à l'arrière de la salle de spectacle, que le régisseur technique assure le bon déroulement des séances. Depuis 2009, nous possédons un système de projection numérique de dernière technologie, capable de représenter des phénomènes astrologiques de manière réaliste, comme le mouvement des planètes ou les éclipses de soleil, et d'interagir en temps réel sur leur déroulement, explique Yann Krognek, responsable pédagogique du planétarium. Un outil très utile, notamment pendant les compléments de séance où l'un des 3 animateurs pédagogiques approfondit pendant une quinzaine de minutes des sujets traités dans le film visionné. En plus des séances publiques et des cycles de conférences, l'équipe pédagogique propose une fois par mois, en partenariat avec l'inspection académique, une formation destinée aux enseignants. L'opportunité pour eux, à l'aide d'un animateur pédagogique de l'équipement, de définir leurs projets et de préparer les thèmes qui seront abordés lors de la venue de leur classe dans le cadre des activités scolaires gratuites.
34 films ont déjà été diffusés depuis son ouverture. 7 d'entre eux, comme Le Temps des Galaxies, ont été produits en interne. De l'écriture du scénario au montage en passant par la création des personnages, le chemin est long jusqu'à l'avant-première. Les tâches les plus techniques, telles que la modélisation ou l'animation des personnages, sont sous-traitées. Il faut compter 6 mois pour obtenir la version aboutie d'un film pour un coût moyen de 150 000 euros, précise Cyril Ruiz, responsable de la production. Ces films sont ensuite vendus à l'international. Nous avons distribué Vacances sur Altaïr dans plusieurs planétariums en France, mais aussi aux États-Unis et même jusqu'en Corée du Sud, précise Jean-Philippe Mercier, directeur du planétarium Galilée. Un nouveau film pour les 4-7 ans, consacré à l'expédition sur la Lune, est actuellement en préparation. Les équipes du planétarium ont fait appel à une scénariste reconnue, Sandrine Joly, qui a notamment travaillé sur des séries télévisées comme Maya l'abeille, Calimero ou Lassie. Une nouvelle production maison qui emmènera une fois de plus petits et grands aux confins du cosmos.
Depuis son ouverture en 2002 à Odysseum, plus de 400 000 spectateurs ont déjà poussé les portes du Planétarium Galilée, un équipement pédagogique de Montpellier Agglomération qui a pour ambition de placer l'astronomie à la portée de tous les publics. Nicole Bigas, vice-présidente de Montpellier Agglomération, déléguée à la culture.
De nouveaux tarifs préférentiels. Tribu, tarif familial, la séance pour 2 adultes et 2 enfants de 4 à 12 ans, 21,50€, 19€ avec le pass aglo. Univers, un abonnement pour toutes les séances en illimité pendant un an. Adultes, 19,90€, enfants, 14,90€.
et retrouvez plus d'infos sur le www.planétarium-galilée.montpellier-aglo.com.
Rubrique Figure d'aglo. Betty Mercier, une énergie positive contre la maladie. En 2005, Betty Mercier perdait sa mère d'un cancer. Frappée par l'absence de réponse aux besoins des femmes malades, cette énergique enseignante-chercheuse a fondé l'association Étincelle, qui leur offre gratuitement soutien, activités et soins de beauté. Jamais à court de projet, elle lance aujourd'hui un magazine.
Betty Mercier a la cinquantaine flamboyante et de l'énergie à revendre. La présidente et fondatrice d'Étincelle nous reçoit dans le salon de la maison de vie de son association, une pièce cosy et apaisante, aux touches rose fuchsia. Fan de déco, elle a entièrement réaménagé cette maison de ville derrière la clinique Saint-Roch pour en faire un lieu chaleureux où l'on prend soin de soi, loin du milieu médical. Opération réussie, on s'y sent comme chez des copines. Ici, les femmes atteintes d'un cancer ne sont pas des patientes, explique Betty Mercier. Nous les appelons les étincelles. Betty, c'est l'allumette, s'amuse Christine Rachet, son bras droit dans l'association. C'est un moulin à projet, rien ne lui résiste, dit-elle encore de sa présidente. Toutes deux, comme la totalité des 25 bénévoles de l'association, ont été confrontées au cancer qui a atteint des proches de leur entourage. La maladie de maman a vraiment été un déclencheur pour moi, raconte Betty Mercier, qui l'a accompagnée tout au long de son cancer du poumon jusqu'à sa mort. J'avais déjà perdu mon père d'un cancer, mais avec ma mère, je me suis rendu compte que cela posait beaucoup de questions sur la féminité, notamment avec la perte des cheveux, des questions dont aucune n'est futile. Inspirée par une association parisienne à qui elle rend visite, Betty Mercier crée en 2008 l'association Étincelle à Montpellier. 600 femmes y ont été accompagnées gratuitement à tous les stades de la maladie, depuis l'annonce jusqu'au traitement et parfois après la rémission. Au programme, cuisine, chant, tai chi, danse, massage, esthétique, soutien psychologique, individuel ou en groupe de parole.
Le parcours que nous offrons gratuitement coûterait 12 000 euros par personne en libéral, explique Betty, qui se démène constamment pour trouver les financements publics et privés nécessaires au fonctionnement de l'association. Mon énergie est celle de mon engagement, mais aussi celle d'un groupe de personnes, explique Betty, qui a recruté son mari, Thierry Force, cuisinier pour les ateliers cuisine et la page recette de son magazine. Elle et Vie, c'est le nom de ce mensuel d'une cinquantaine de pages dont le troisième numéro vient de sortir. Il est diffusé à 10 000 exemplaires, essentiellement auprès des professionnels de santé. J'aime les mots, les histoires de vie, la mode et la déco, raconte Betty, qui explore le métier de rédactrice en chef avec un plaisir évident. Parallèlement, Betty Mercier continue d'exercer son métier d'enseignante-chercheuse. Après avoir longtemps travaillé sur l'exercice musculaire, elle a bifurqué sur l'activité physique et la nutrition des femmes atteintes de cancer. Des étudiants de la faculté des sports et de l'éducation physique, où j'enseigne, viennent faire leur stage ici, raconte-t-elle. Jusque dans sa vie professionnelle, le cancer a bouleverser sa vie.
Plus d'infos sur https://www.facebook.com/étincelle.lr en capitale ou bien http://étincelle-lr en minuscule.com/. Téléphone 04 67 58 94 23. Les dons sont toujours les bienvenus.
Le dossier de votre magazine Montpellier Aglo du mois de mars 2013 a pour titre « Budget 2013 au service des habitants et de l'emploi ».
Transport, logement, emploi, réseau d'eau potable et d'assainissement, collecte et traitement des déchets, l'agglomération intervient dans des domaines indispensables au quotidien des 420 000 habitants de ses 31 communes. Tout cela a un coût, prévu et couvert par le budget annuel de la collectivité. Voté à une très large majorité le 12 février dernier par ses élus, le budget 2013 de Montpellier Agglomération est rigoureux tout en laissant une place importante à l'investissement, source d'activité et d'emploi. Il permet d'assurer un service de qualité et solidaire tout en préparant l'avenir. D'où viennent les ressources de la collectivité? Comment sont-elles utilisées? Quelles sont les priorités, les chantiers à venir? Les explications en chiffres et en projets.
832 millions d'euros. un budget solidaire face à la crise. Dans un contexte financier contraint, Montpellier Agglomération engage un budget responsable où la solidarité prime et poursuit ses investissements pour le développement du territoire. Interview de Thierry Bresse, vice-président de Montpellier Agglomération délégué aux finances. Dans quel état d'esprit avez-vous élaboré ce budget ?
Élaborer un budget, ce n'est pas seulement réfléchir sur des chiffres. C'est d'abord faire des choix sur les politiques publiques que nous voulons conduire dans le contexte actuel où sévit la crise et croissent les inégalités. C'est répondre aux besoins quotidiens des habitants du territoire, notamment celles et ceux qui font face aux plus grandes difficultés. C'est de notre responsabilité d'élus de la communauté d'agglomération de Montpellier de prendre en compte tous ces paramètres contextuels et sociaux afin d'assurer la meilleure des équités. Face à cette situation, le président Jean-Pierre Mour et les élus des 31 communes ont choisi de se mobiliser et de mettre le dynamisme de la collectivité au service de ses citoyens. Réduction des dépenses publiques, réponse à la demande sociale face à la conjoncture économique actuelle, bataille pour l'emploi et la solidarité sont les maîtres mots de notre budget 2013.
Quelles économies ont été faites sur ce budget ?
Nous avons réalisé 27 millions d'euros d'économies. Comme toute collectivité responsable, nous contribuons au redressement national en réduisant nos dépenses. Une des décisions prises a été d'anticiper la baisse des dotations de l'État, conséquente ces dernières années, et qui s'accentuera encore dans les années à venir afin d'assainir les déficits publics nationaux. Ainsi, le président a d'abord demandé en interne aux 1300 agents de la collectivité de participer à cet effort en réduisant de 5% le budget de fonctionnement tout en continuant à assumer pleinement leur mission quotidienne de service public. Transport, collecte des déchets, médiathèque, piscine, réseau d'assainissement et d'eau potable, logement, téléalarme. Notre devoir est d'apporter des services de qualité à tous les habitants.
Les taxes vont-elles augmenter en 2013 ?
Non, nous n'allons pas reporter la diminution de nos recettes sur les contribuables. Il n'y aura pas d'augmentation et nous maintenons les taux d'imposition au niveau de 2012 pour les ménages comme pour les entreprises. Pour la cinquième année consécutive, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'augmentera pas non plus. Même chose pour les tarifs des transports et des équipements gérés par l'agglomération. Pour maintenir nos projets au service des habitants et de l'emploi, nous nous appuyons sur les finances saines de notre collectivité. Cette maîtrise de notre gestion fait de nous un partenaire fiable dont la qualité de signature est soulignée par l'annuaire financier et fiscal des agglomérations. Malgré le contexte budgétaire très tendu, notre investissement reste près de 4 fois supérieur à la moyenne des grandes communautés d'agglomération.
À quelle hauteur s'élèvent les investissements de l'agglomération ?
Les dépenses d'investissement représentent 215,7 millions d'euros. La collectivité poursuit ses projets d'aménagement et d'équipement afin de répondre de façon cohérente, équilibrée et planifiée aux besoins de la population et de tous les acteurs économiques. Nos trois premiers postes de dépenses sont les transports, la gestion des déchets et le triptyque développement économique, foncier, logement. Dans le contexte de rigueur budgétaire actuelle, certains projets sont échelonnés sur plusieurs années. Ainsi, si leurs études sont maintenues au budget, leurs réalisations sont étalées sur le temps. À travers ces importants investissements, l'agglomération participe au soutien de l'activité locale. Elle permet aux entreprises de remplir leur carnet de commandes, de maintenir et de créer de l'emploi. C'est notre combat, nous voulons jouer un rôle primordial dans la bataille de l'emploi. Cette année 2013 est fondamentale en la matière. Elle marque le début de notre engagement dans des projets structurants majeurs pour la période 2013-2017. Contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier, nouvelle gare TGV, déplacement de l'autoroute A9, cinquième ligne de tramway, ces investissements de plus de 5 milliards d'euros sur le territoire sont des leviers pour l'économie locale qui peuvent représenter jusqu'à 8000 emplois directs et indirects maintenus ou créés par an. Nous ne laisserons pas passer cette formidable aubaine pour les habitants de notre territoire.
Il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition en 2013 pour les ménages et les entreprises. Déclaration de Jean-Pierre Mour, président de Montpellier Agglomération.
Où va l'argent ? Dépenses du budget consolidé par grand domaine d'action, investissement plus fonctionnement. Transports urbains, 19%. Développement économique, urbanisme, logement, 18%. Collecte et traitement des déchets ménagers, 17%. Culture, 12%. Assainissement, SPANC, 10%. Sport, jeunesse, 8%. administration générale 7%, eau brute, eau potable 3%, sécurité et salubrité publique 3%, enseignement, formation 2%, funéraire 1%.
D'où vient l'argent ? Recettes du budget principal hors réaménagement de dette, investissement plus fonctionnement. Dotation et compensation de l'État, 14,17%. Versement transport, 12,82%. Taxe d'habitation, 12,68%. Emprunt, 11,88%. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 10,37%. Épargne, 9,66%. Cotisation foncière des entreprises, 8,56%. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 4,91%. Produits des services, 4,35%. Subvention d'équipements reçus, 2,95%. Autres, 2,48%. Autres taxes transférées, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, taxes sur les surfaces commerciales, taxes sur le foncier non bâti, 1,58%. Produits de cession d'immobilisation, 1,45%. Attribution de compensation, 1,16%. Fonds de compensation pour la TVA, 1%.
À quoi sert le budget de l'agglo ? Un service public de proximité et de qualité, des investissements pour l'emploi, la solidarité et l'aménagement du territoire, telles sont les priorités du budget 2013 de Montpellier Agglomération. Présentation.
Logement, 8,8 millions d'euros. De plus, 340,4 millions d'euros de prêts pour le logement ont été garantis par Montpellier Agglomération en 2012. 1500, c'est le nombre de logements locatifs sociaux qui seront engagés cette année sur le territoire. 120 d'entre eux seront plus particulièrement adaptés aux personnes rencontrant de grandes difficultés pour se loger. Des résidences d'insertion leur seront ainsi proposées, telles qu'une maison relais et une résidence pour accueillir des femmes seules avec enfants. 3 EHPAD, des établissements dédiés aux personnes âgées dépendantes, seront également rénovés ou agrandis. Afin de faciliter l'accès à la propriété à un large public, 150 nouveaux logements en accession aidée seront construits. Acteur principal du logement public, l'agglomération aide également les propriétaires privés à rénover leurs logements dégradés, qu'ils occupent eux-mêmes ces logements ou qu'ils les mettent en location.
Transport, 116,4 millions d'euros. Depuis leur lancement simultané le 6 avril dernier, les lignes 3 et 4 de tramway facilitent les déplacements quotidiens de milliers d'usagers. Chaque jour, 49 000 voyages sont effectués sur les 20 km de la ligne 3 et 19 000 le long des 17 arrêts de la ligne 4. Dans les prochains mois, la réalisation d'un parking d'échange de 1200 places sur 4 niveaux sera lancée dans le quartier de la Mausson. La ligne 5, de Laverune à Prades-le-Lez, viendra enrichir ce réseau exceptionnel qui desservira à terme 60% de la population, 64% des emplois et 81% des étudiants du territoire. Les travaux de la première tranche, Laverune-Clapiers, débuteront dès la fin de l'année. La concertation sur le prolongement de la ligne 1 depuis Odysseum sera quant à elle engagée dans les prochains mois afin d'accompagner le développement du futur quartier Ose-Montpellier Nature Urbaine et de la gare TGV. L'agglomération participe également à la modernisation du pôle d'échange multimodal de la gare Saint-Roch et poursuit la mise en accessibilité de l'ensemble de son réseau de transport.
Développement économique et politique foncière, 35,7 millions d'euros. Montpellier Unlimited, la nouvelle stratégie économique de l'agglomération lancée en 2012, donne priorité à l'emploi. Elle s'articule autour de 5 principaux axes qui se poursuivront au cours de l'année. Ainsi, la collectivité accompagne l'innovation des start-up et des filières d'excellence, cœur de la croissance économique du territoire. Elle favorise le développement des TPE et PME artisanales et commerciales en mobilisant dès 2013 un fonds spécifique pour les aider à grandir. Toujours au service des entreprises et de l'emploi, Montpellier Agglomération aménage ses 19 parcs d'activités d'infrastructures économiques performantes et renforce ses partenariats à l'international, notamment avec la Chine. L'insertion par l'économique, qui permet à des demandeurs d'emploi, particulièrement des jeunes sans qualification, de se former et de répondre aux besoins locaux, sera développée. Une convention multipartenariale initiée par le président de Montpellier Agglomération permettra d'appliquer cette démarche à l'ensemble des grands travaux prévus dans l'agglomération. En outre, Montpellier Agglomération mène une politique foncière au service de la croissance et la réalisation des grands projets d'aménagement structurants.
Déchets, 77,9 millions d'euros. De la prévention au traitement des déchets, en passant par la gestion et la collecte, Montpellier Agglomération assure au quotidien un service public de proximité auprès de ses habitants. Depuis 2010, la collectivité est engagée dans un vaste programme de réduction des déchets. Objectif, diminuer de 7% leur quantité en 5 ans. L'agglomération met à disposition de ses habitants les équipements et les services qui facilitent la prévention et le tri des déchets, mais cet objectif nécessite l'implication de tous. À partir de cette année, l'accent sera notamment mis sur l'amélioration du tri du verre. Ainsi, 380 nouveaux conteneurs plus pratiques et esthétiques seront installés sur tout le territoire afin de faciliter la récupération de ce déchet recyclable à l'infini. Les 20 points propreté et la plateforme de traitement des déchets végétaux de Gramont seront modernisés. Les études sur l'extension du centre de tri Déméter, où sont traitées plus de 22 000 tonnes de déchets recyclables par an, seront poursuivies.
Eau, assainissement, 24,8 millions d'euros. Lancée fin 2012 auprès des usagers, des professionnels et des élus, la grande concertation sur l'eau et l'assainissement se poursuit avec la tenue le 25 mai d'un forum ouvert à tous au Corum. Afin d'assurer un service public de qualité et d'anticiper les futurs besoins des habitants, de nouveaux travaux d'assainissement et d'eau potable seront réalisés cette année sur le territoire, notamment à Pérol, Cournon-Terral, Saint-Geniès-des-Mourgues, Montferrier-sur-Lèze, Montpellier et Saint-Bresse.
Lutte contre les inondations, 3,8 millions d'euros. Pour garantir la sécurité des biens et des populations vivant dans des zones inondables en cas de forte crue, Montpellier Agglomération construit ou conforte des digues assurant la protection des habitants. Cette année, les principales opérations concerneront les digues du Lèze à Latte et Port de Carême à Pérol. Les études nécessaires à la mise en place d'un système d'alerte de gestion des inondations dans le cadre d'Écocité seront également lancées.
Culture, 34,1 millions d'euros. Médiathèque, musée, opéra, théâtre, agora de la danse, conservatoire, école des beaux-arts, aquarium. À travers les multiples équipements qu'elle gère et finance, Montpellier Agglomération propose une offre culturelle variée de haute qualité. En 2013, des expositions d'envergure comme Signac, les couleurs de l'eau, au musée Fabre, ou une odyssée gauloise à la Tara enrichiront cette programmation. Toute l'année, dans les 31 communes du territoire, des manifestations déconcentrées gratuites des grands festivals de danse ou de musique, mais aussi les concerts du conservatoire L'Aglo en fête, L'Aglo fait son cinéma, ou Vendémiaire, valorisant les cultures d'oc, favorise la proximité culturelle. Par ailleurs, différents travaux de réhabilitation d'équipements culturels remarquables se poursuivront cette année.
Sport, 25,6 millions d'euros. Pour les amateurs de natation, autant que pour les fans de football, Montpellier Agglomération construit et gère des équipements sportifs performants accessibles à tous. Scolaires, familles et clubs se partagent les bassins des 12 piscines de l'agglomération. Un nouvel établissement à Latte complétera ce réseau dès cette année, qui sera suivi d'une 14e piscine communautaire à Saint-Bresse. Un vaste programme de réhabilitation du stade de la Mausson Mondial 98 démarre cette année afin de le rendre plus fonctionnel et d'offrir à tous une accessibilité et des conditions d'accueil de qualité. En parallèle, la collectivité, premier partenaire du sport de haut niveau, poursuit son soutien à 24 clubs élites qui font de l'agglomération l'une des plus sportives de France.
Service funéraire, 2,4 millions d'euros. Premier opérateur funéraire public normalisé de France, Montpellier Agglomération propose un service personnalisé aux personnes touchées par un deuil. En 2013, les investissements seront principalement consacrés à l'optimisation du confort des familles, à l'isolation des façades afin de maîtriser les dépenses d'énergie et à la mise aux normes des accès réservés aux personnes à mobilité réduite.
Et demain, un aménagement durable du territoire pour préparer l'avenir. Montpellier Agglomération est un acteur majeur dans l'aménagement du territoire. Dans ce budget 2013, mais aussi au cours des 5 prochaines années, elle investit dans d'importantes opérations d'urbanisme structurantes, sources d'activités et d'emplois locaux. Contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier, nouvelle gare TGV Odysseum, requalification de l'autoroute A9, quartier Ose-Montpellier Nature Urbaine, pôle multimodal de Bayargues, Écocité, Route de la Mer, constamment dans l'anticipation, la collectivité poursuit sa politique foncière pour réaliser les logements, les services et l'économie de demain. Pour faciliter la vie quotidienne de ses habitants, elle déploie un schéma directeur d'aménagement numérique, SDAN, dans ses communes et élabore un schéma directeur temps et territoire, SDIT, permettant une nouvelle organisation temporelle de tous dans le cadre de la réforme nationale des rythmes scolaires.
Et retrouvez plus d'infos sur montpellier-aglo.com.
Les enfants de l'aglo. Sport, programme libre à la patinoire Vegapolis. Tu aimes patiner mais il te manque les bases pour te sentir à l'aise sur la glace? Tu peux apprendre à l'école de glace de la patinoire Vegapolis ou à la section loisirs du club de hockey sur glace. Les plus doués pourront tenter le patinage artistique.
70% de la clientèle de la patinoire Vegapolis a entre 8 et 16 ans. Sur la piste ludique, les soirs de week-end, les ados adorent l'ambiance discothèque avec boule à facettes et DJ. Les jours de semaine, ce sont les enfants des écoles de l'agglomération qui occupent la glace. En effet, Montpellier Agglomération finance chaque année l'apprentissage du patinage pour 50 000 élèves du primaire. Le dimanche, c'est le jour des familles. Les plus petits peuvent se lancer dès 4 ans grâce à des patins à deux lames ou des chaises glissantes. Pour ceux qui souhaitent prendre des cours, la patinoire Vegapolis a une école de glace qui accueille 300 personnes par an, dont 200 enfants. L'accueil se fait de septembre à juin à raison d'une heure par semaine, 130 euros pour les habitants de l'agglomération, ou lors de stages organisés pendant les vacances scolaires, 85 euros pour 5 heures par semaine. Depuis cette année, le club de hockey sur glace des Vipers a également ouvert une section loisirs pour les enfants qui débutent après 10 ans. Les deux premières séances d'essai sont gratuites, peuvent être prises à n'importe quel moment de l'année et l'essentiel du matériel est prêté. Pour devenir un as du double axel et du triple lutz, le club Montpellier Patinage accueille les 5-7 ans dans sa section Babies et les enfants qui ont déjà des notions de patinage à partir de 7 ans.
Pour plus d'informations, www.montpellier-aglo.com/vegapolis, www.montpellier-vipers.com/accueil/ et www.montpellierpatinage.wifeo.com/.
Rendez-vous en mars, vidéo des enfants. Film d'animation gratuit à la médiathèque centrale Federico Fellini. Les mercredis à 14h à partir de 7 ans et à 16h à partir de 3 ans. Salle Jean Vigo. Les dimanches à 16h, salle Orson Welles. Plus d'informations sur le www.montpellier-aglo.com/médiathèque au pluriel.
Du 12 au 21 mars, théâtre pour ados. Perdu pas loin, une pièce de Sarah Fourage avec pour personnage trois collégiens inséparables, à voir dès 14 ans. Théâtre des 13 vents à 19h, durée 45 minutes, tarif 11,50 €. Plus de renseignements sur le www.théâtre-13vents.com.
Dimanche 17 mars, la journée des enfants. Jeux de piste, ateliers, spectacle par la compagnie Art Mixte sur le thème du voyage. À Murviel-les-Montpellier, salle Lamouroux, de 14h à 18h, tarif de 6 à 8 euros, téléphone 04 67 47 73 48, un site internet artmixte.com.
Rubrique L'aglo c'est nous. Montferrier-sur-Lèze. Solidarité, courir ou marcher. Quel que soit votre niveau, quel que soit votre âge, venez courir sur 8 km ou marcher sur 5 km dimanche 24 mars avec le Zonta Montferrier Olympe de Gouges au profit de la Ligue contre le cancer. Départ du centre culturel Le Devezou à 10h30, inscription sur place à partir de 9h, renseignements au 06 68 45 84 88, tarif 10 euros. Et aussi, dimanche 17 mars à 18h, récital de piano par Jeff Martin au profit de la Ligue contre le cancer, au centre culturel Le Devezou, tarif 10 euros, téléphone 04 67 59 81 34.
Le CRES, solidarité au rythme du flamenco. Équitable Concert, une association crécoise créée en 2005, organise des concerts au profit d'œuvres caritatives. Son prochain événement aura lieu vendredi 15 mars à 20h30, salle Georges Brassens. Au programme, art espagnol, flamenco classique et traditionnel au profit de Red Odyssey 4-4. Tarif 10 euros, renseignements sur le www.equitableconcert.fr. Et aussi, dimanche 24 mars, le CRES en fête organise en partenariat avec la municipalité le carnaval de la commune. Départ 14h30, place de la Liberté. Ce même jour à 17h, le CRES Art et Culture propose un récital de piano avec la Montpelliéraine Alessandra Agosti au Chai, rue de la Meulière. Tarif 10 euros, 8 euros sur réservation. Téléphone 04 67 70 70 47.
Fabreg, festival, 4 pièces de théâtre amateur. L'association Les Quatre Chemins organise son festival de théâtre amateur du 13 au 16 mars au centre culturel José Janson. Téléphone 04 67 85 11 57, tarif 10 euros. Et aussi, le prochain bal animé du Country Western Fabreg aura lieu samedi 30 mars à partir de 19h au centre culturel, tarif 5 euros.
Pignan, tradition, jour de carnaval. Des centaines de milliers de fleurs, des millions de confettis, une multitude de couleurs et une infinité de notes de musique. 11 chars accompagnés de nombreux groupes de musique vont animer les rues de la commune dimanche 17 mars. Départ à 14h30 devant le parc du château. Et aussi, départ samedi 6 avril à 16h dans le parc du château pour les foulées de Pignan, course enfants 5 et 10 km, organisée par Montpellier Aglo Triathlon. Renseignements sur le www.montpelliertriathlon.com.
Castelnau-le-Lez, Jazz in Lez, Magic Shook Heads. Réunis par une passion commune pour le jazz du début du siècle, les six musiciens de Magic Shook Heads font revivre le répertoire de génies tels que Duke Ellington, Jelly Roll Morton, Bix Beiderbecke et bien d'autres. Ils se produiront vendredi 22 mars à 21h dans le cadre de Jazz in Lez à l'espace Rencontre, tarif de 5 à 8 euros.
Castries. Art, les Castriotes s'exposent. Du 15 au 17 mars, une quarantaine de peintres, sculpteurs, céramistes et photographes castriotes investit la Galerie des Halles et la Maison Paradan pour 3 jours d'exposition. Vernissage, vendredi 15 mars à 18h. Téléphone 04 67 91 28 50. Et aussi, Valérie Bascoul et Sandrine Serre, art-thérapeutes de l'association Au fil de lettres, organisent du 27 au 31 mars une conférence, une exposition et des ateliers découvertes sur l'art transformationnel, un prolongement de l'art-thérapie. Téléphone 06 03 90 48 31.
Pérol, théâtre, l'île des esclaves. La compagnie des Quatre Coins joue l'île des esclaves de Marivaux, samedi 16 mars à 21h, salle Yves Abric. Cette pièce est une comédie sans ronron avec du ridicule qui tue le ridicule, avec de la baston et du délire, de la malice dans la bêtise, note le metteur en scène Pierre Esch. Tarif de 3,50€ à 7€, gratuit pour les moins de 16 ans.
Bayargues, théâtre 100% comédie. Scène Attitude, le festival de théâtre amateur organisé par la municipalité, se déroulera salle Claude Plan du mercredi 13 à 15h au dimanche 17 mars à 16h. Une 5e édition placée sous le signe du rire. Au programme, La valise oubliée pour le jeune public par la troupe À Bonheur, Tout baigne par La Mandibule, Ma femme s'appelle Maurice par les meneurs de jeu, Les belles sœurs par l'Astoria et Couple en danger par Tous en scène. Téléphone 04 67 87 80 81. Et aussi, la nouvelle association La Pena Bayos Musique recherche des musiciens pour compléter son groupe. Téléphone 05 51 00 36 87, une adresse mail penabayusmusique@free.fr.
Grabels, exposition Biennale du Verre. Pour sa 2e Biennale du Verre, la commune réunira du 28 au 31 mars 6 artistes verriers présentant chacun un travail particulier, du verre soufflé, du thermoformage, du fusing, de la sculpture. Vernissage samedi 30 mars à 17h, salle de la Gerbe de 10h à 19h, téléphone 04 67 10 41 13.
La Vérune, théâtre, 4 compagnies en scène. 4 pièces seront jouées dans la salle polyvalente du Château des Évêques en ce mois de mars. Au programme, samedi 16 mars à 18h, 12 rue de la Joie par la compagnie Mungo. Dimanche 17 mars à 18h, Bang par la compagnie Volpinex. Samedi 23 mars à 20h30, Sentiment provisoire par la compagnie De fil en aiguille. Et dimanche 24 mars à 18h, Le songe d'une nuit d'été par la compagnie La pièce montée. Entrée libre.
Latte, danse, Paquita au théâtre Jacques Coeur. Dimanche 24 mars à 18h, soirée danse classique sur Paquita de Marius Pepita au théâtre Jacques Coeur. Sur scène, des couples de l'Opéra de Paris et de la compagnie François Mauduit, accompagnés par le Jeune Ballet de Montpellier et de l'Hérault. Tarif 30 euros, téléphone 06 82 00 31 92.
Saint-Dreséry, tradition, un carnaval d'Amérique du Sud. L'école maternelle, les associations, les assistantes maternelles et la municipalité préparent le carnaval sous les couleurs de l'Amérique du Sud et au son d'une peña. Rendez-vous le samedi 16 mars à 10h pour un joyeux défilé dans les rues et le jugement de Monsieur Carnaval. Et aussi, dimanche 31 mars à 15h, dans la salle Cardonnet, les Gilles, artistes prestidigitateurs et ventriloques, donneront un spectacle qui sera suivi d'une chasse aux œufs. Entrée libre.
Saint-Georges d'Orque, concert. Elle Écho en chœur. L'ensemble vocal Elle Écho, un chœur mixte à 4 voix créé en 1975 à Pignan, se produit en l'église de Saint-Georges d'Orque le 16 mars à 20h30. Ils seront une cinquantaine de choristes, sous la direction du chef de chœur Nathalie Fresson, à interpréter des œuvres de la Renaissance, baroque ou de chanteurs contemporains. Entrée libre, plus de renseignements sur le www.elecho.e-monsite.com.
Balade aglo, culture et jeunesse anime Saint-Bresse. Sous ses airs paisibles d'anciens villages viticoles, Saint-Bresse est en réalité une localité animée qui regorge de richesses. Un subtil mélange entre une jeunesse affirmée et un goût prononcé pour la culture.
On accède au centre de la commune par le Vieux Pont, un édifice du XIe siècle qui surplombe le Bérange. Un cours d'eau, aujourd'hui asséché, utilisé jusqu'au début du siècle dernier pour transporter des marchandises, et notamment du vin, en direction du port de Candillargues. Avec les imposantes silhouettes de ces maisons vigneronnes et leurs remises attenantes, dans les rues de la Cascade et de Fontmagne, le cœur de ville reste fortement marqué par son histoire. À partir du début du XXe siècle, les Saint-Brézois ont progressivement remplacé le travail de la vigne par une autre forme de culture. Cirque, expositions et concerts de musique, la commune est animée tout au long de l'année. En mars, le carnaval de Saint-Bresse est l'occasion d'assister au défilé de ces impressionnants chars dans les rues du village, dont certains sont empruntés au carnaval de Nice, réputé en la matière. En juin, le temps d'un week-end, la commune renoue avec les traditions occitanes à l'occasion du festival Total Festum.
Aménagée entre les murs du château, la salle Nicolas Ménargue est dédiée exclusivement aux jeunes du village. Un espace de jeu et de rencontre encadré par plusieurs animateurs qui démontrent l'attachement de la commune à sa jeunesse. Avec le skatepark inauguré le 15 décembre dernier, les riders locaux s'offrent des sensations fortes sur cette nouvelle ère de jeu. Un projet financé en partie par Montpellier Agglomération qui a vu le jour grâce à l'implication du Conseil municipal des jeunes, CMJ. Composé de 9 Saint-Brézois âgés de 12 à 14 ans, ce conseil des juniors a suivi le dossier à l'aide de leurs aînés jusqu'à sa réalisation. Un dernier détour s'impose par la colline Carbonnier, située au nord-est de la commune. Ses hauteurs offrent un point de vue imprenable sur le village d'un côté et sur la plaine viticole de l'autre qui s'étale à perte de vue.
Retrouvez plus d'infos sur le www.ville-saint-bresse.fr.
Une vitalité préservée. Entretien avec Laurent Jaoul, maire de Saint-Bresse, conseiller communautaire. Comment définiriez-vous votre commune ?
Au fil des décennies, Saint-Bresse a perdu son identité rurale et agricole pour devenir un village résidentiel. La localité a su préserver sa vitalité d'antan, grâce notamment à la dynamique impulsée par les associations du village.
Quels sont vos projets ?
Nous venons de lancer l'aménagement du nouveau quartier Cantocelle sur près de 24 hectares. Un projet sur les 10 prochaines années qui accueillera des logements ainsi que de nombreux équipements publics, écoles, aires de jeu, piscines d'agglomération Héraclès, etc. Nous venons de démarrer des travaux de voirie dans la rue du Vieux-Pont afin d'améliorer la circulation sur cette artère qui irrigue le cœur de ville.
Quels sont vos événements phares ?
Début février, nous accueillons le salon d'artisanat de la Saint-Valentin et nous organisons notre carnaval le 17 mars prochain. Le concert de Noël est un autre rendez-vous incontournable au cours duquel nous mettons à l'honneur un territoire régional. Après la Corse et le Pays Basque, cette année, ce sera la Bretagne.
Rubrique Plaisir d'agglo. Théâtre, les femmes à l'honneur. Dans le cadre de Femmes dans l'agglo, un cycle sur la place de la femme dans la société, initié il y a 2 ans par le président Jean-Pierre Moore et le Fonds d'aide à la diffusion théâtrale, Montpellier Agglomération soutient 4 pièces de théâtre sur le thème des femmes. Rien que des hommes, par la compagnie internationale Alligator, le 22 mars à Latte, le 23 mars à Villeneuve-les-Maglones, le 13 avril à Grabels. Anna Arendt, Exil Atlantique, par la Compagnie du Visage, du 21 mars au 7 avril, au Carré Rondelet. Rotterdam la Nuit, par la Compagnie Jeanne Aloca, mise en scène d'Alexandra Place, du 23 au 25 mai, au Carré Rondelet. Antigone, par la Compagnie Francophone, mise en scène de Damien Goudet, du 20 mars au 19 mai, au Théâtre Pierre Tabar. Et retrouvez plus d'infos sur le www.montpellier-aglo.com.
Table ronde. Hommage à Rosa Parks. La médiathèque Émile Zola organise une soirée hommage à Rosa Parks, grande figure féminine qui a lutté contre la ségrégation raciale aux États-Unis à l'occasion du centenaire de sa naissance. Rencontre avec le romancier camerounais Eugène Ebaudet pour la sortie de La Rose dans le bus jaune. Corinne Samina Dayar Perrin, professeure de littérature à l'université Paul Valéry, Jean-Noël Chiffano, directeur de la collection Continent Noir chez Gallimard, animeront également cette table ronde. Des intermèdes musicaux de gospel blues seront joués par Martin Coombs. Mardi 12 mars, Montpellier, médiathèque Émile Zola à 18h30, tramway ligne 1 et 4, arrêt Place de l'Europe. Plus de renseignements sur le www.montpellier-aglo.com/médiathèque au pluriel, entrée libre.
Danse, Philippe Découfflé, Okorom. Il a marqué le public avec ses mises en scène aux Jeux Olympiques de 1992, son passage au Crazy Horse ou sa récente création pour les virtuoses du Cirque du Soleil. Passant des spectacles à grande échelle aux petites formes, mêlant humour et poésie, Philippe Découfflé s'affranchit des frontières entre les arts et les émotions. Panorama est une sorte de best-of de son œuvre, une vue d'ensemble de ses créations qu'il éclaire sous un jour nouveau. Du 13 au 15 mars, à Montpellier au Corum, Opéra Berlioz à 20h, tramway ligne 1, 2 ou 4, arrêt Corum, téléphone 0800 600 740, un site internet montpellierdanse.com, tarif de 7 à 30 euros.
Du 7 au 10 mars, Salon Equisud Montpellier. Cette 13e édition du Salon du Cheval mettra à l'honneur les équitations et traditions autour du cheval Camargue. Spectacle L'Alchimie équestre de Mario Lourachi, les vendredis et samedis à 21h à la Park & Suite Arena. Pérol, Parc des Expositions de Montpellier de 10h à 20h, téléphone 04 67 17 67 17, un site internet www.equisud-montpellier.com.
Les 8, 9, 10 et 13 mars, Mime, le géant de sel, d'après Pantagruel de Rabelais. Spectacle de mime, danse et bouffon par la compagnie des Atomes de Frédéric Herrera, de 7 à 77 ans. Rendez-vous à Montpellier au théâtre Pierre Tabar, tramway arrêt Corum ou Louis Blanc, téléphone 04 99 62 83. 13, tarif 7 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants, 5 euros avec le pass aglo.
Samedi 9 mars, mode, Fashion Kaftan Show, 4e édition de ce défilé de robes marocaines organisé par des étudiantes de l'IDRAC pour mettre en avant la diversité culturelle. À Montpellier, à l'Opéra Comédie à 20h30, tarif 10 euros, téléphone 06 28 90 50 46.
Du 12 au 15 mars, théâtre, La maladie de Sack. La Bulle Bleue organise Aparté, un cycle de rencontres ouvert à toutes les formes d'expression et à tous les publics. Avec les 14 et 15 mars, la maladie de Sack, d'après Martine Winkler. Par le théâtre de la Remise, mise en scène de Marion Coutarel. À Montpellier, à la Bulle Bleue, au 285 rue du Mas Prunet, téléphone 04 67 42 18 61, un site internet labullebleue.fr, tarif de 5 à 9 euros.
Du 12 au 16 mars, théâtre Solness le Constructeur de Henri Ibsen, une nouvelle production mise en scène par Alain Françon. À Montpellier, au Théâtre des 13 Vents, téléphone 04 67 99 25 00, un site internet www.theatre-13vents.com, tarif de 7 à 24 euros.
Mercredi 13 mars, concert The Lost Fingers. Très inspiré par Django Reinhardt et adepte de la musique des années 80, le groupe québécois s'attaque au marché français. À Montpellier, le Jam à 21h, téléphone 04 67 58 30 30, un site internet lejam.com, tarif 13 euros.
Les 13, 16, 17, 20, 23 et 24 mars, Théâtre Enfant, Zouibap, théâtre musical par la compagnie Piquet Collégramme, Sarah Hassler et Maroutin, de 6 mois à 5 ans. À Montpellier, au Théâtre de la Plume à 16h, 6 rue Guillaume Pélissier, tramway ligne 3, arrêt Plan Cabane, un site internet www.plumetheatre.com, téléphone 04 67 58 73 78, tarif de 4 à 7 euros.
Jeudi 14 mars, conférence L'Homme des Grands Blancs. Passionné par la photographie sous-marine et instructeur à la Fédération française de plongée, Ludovic Savariello partagera avec le public de Marina Strum son expérience en Afrique du Sud. Il contera le récit de sa rencontre avec André Hartmann, l'homme qui parle et nage avec les requins blancs. Une histoire impressionnante. À Montpellier, à l'Odysseum Aquarium Marina Strum à 19h, téléphone 04 67 13 05 50, entrée libre, réservation obligatoire par mail à virginie.fouché@aquariummarinostrum.fr.
Les 14 et 15 mars, théâtre, la fascination du désastre. Trio clownesque par l'Atelier 29, en collaboration avec la Verrerie d'Alès, pôle national cirque Languedoc-Roussillon. Rendez-vous à Montpellier au théâtre Jean Villard à 20h. Téléphone 04 67 40 41 39, un site internet théâtrejeanvillard.montpellier.fr, tarif de 5 à 15 euros.
Du 14 au 24 mars, théâtre Apocalysis, une comédie par l'Accidental Company, mise en scène de Antonio Ordóñez Garbarèche. À Montpellier, au Théâtre La Vista, 42 rue Adam Craponne, téléphone 04 67 58 90 90, un site internet theatrelavista.free.fr, tarif 12 euros, 10 euros avec le pass aglo.
Du 15 mars au 19 avril, exposition Point de Mire. Les étudiants de l'École supérieure des beaux-arts de Montpellier Agglomération, diplôme national d'expression plastique 2012, exposent. Vernissage le 14 mars. Rendez-vous à Montpellier, Esbama, téléphone 04 99 58 32 85, un site internet montpellier-aglo.com/esbama, entrée libre.
Samedi 16 mars, théâtre, Le Voyage de Pénazard de François Cervantes par la compagnie L'Entreprise pour adultes et adolescents. À Villeneuve-les-Maglones, au Théâtre de Villeneuve à 19h30, téléphone 04 67 69 58 00, un site internet théâtre-maglone.fr, tarif 15 euros, 14 euros avec le pass aglo.
Waterpolo, Montpellier Waterpolo 7, championnat de France. Rendez-vous à Montpellier, à la piscine olympique Antigone à 20h, téléphone 04 67 81 42 23, un site internet www.montpellierwaterpolo.com, tarif 5 euros, réduction de 2 euros avec le pass aglo.
Volley, Montpellier-Chaumont, dans le cadre de la Ligue A masculine. À Castelnau-le-Lez, au Palais des Sports à 20h. Téléphone 04 67 45 77 77. Un site internet montpellier-volley.clubeo.com. Tarif 6 euros, 3 euros de réduction avec le pass aglo.
Concert Magic Malik. Jazz, funk, world, pop, électro, afro-caribéen, l'art de Malik Mezadri, flûtiste de son état et sans ornière. Rendez-vous à Montpellier, au Jam, à 21h. Téléphone 04 67 58 30 30. Un site internet www.lejam.com. Tarif 20 euros.
Football, Montpellier 3, championnat de France. Rendez-vous à Montpellier au stade de la Mosson à 20h. Téléphone 04 67 15 46 00. Un site internet mhscfoot.com. Tarif de 15 à 70 euros. 4 euros avec le pass aglo dans la limite des places disponibles à retirer dans les maisons de l'agglomération.
Mardi 19 mars, volley Montpellier-Rennes, Ligue A masculine. Rendez-vous à Montpellier, Palais des Sports Pierre de Coubertin à 20h. Téléphone 04 67 45 77 77. Un site internet montpellier-volley.clubeo.com. Tarif 6 euros, réduction de 3 euros avec le pass aglo.
Les 20, 23, 24, 27, 30 et 31 mars, théâtre Whoosh, un petit air. Spectacle pour les bébés à partir de 1 an par la compagnie Caracol. Rendez-vous à Montpellier, au théâtre La Vista, à 10h30 et à 16h, 42 rue Adam Craponne. Téléphone 04 67 58 90 90. Un site internet théâtrelavista.free.fr. Tarif de 6 à 7 euros.
Jeudi 21 mars, théâtre Richard III de William Shakespeare. Adaptation et mise en scène Jérémy Lelouette. Rendez-vous à l'hâte au théâtre Jacques Coeur à 20h30. Téléphone 04 99 52 95 00. Un site internet le www.ville-latte.fr. Tarif 26 euros, 16 euros avec le pass aglo.
Concerts Sweet Shop et Daphonix Soul. À Saint-Jean-de-Védas, Victoire 2 à 20h. Téléphone 04 67 47 91 00. Un site internet victoire2.com. Tarif 17 euros, 2 euros de réduction avec le pass aglo.
Rencontre Pascal Rouquette. Il et elle de Méditerranée, des contes traditionnels sur les femmes des îles de Méditerranée. Tout public à partir de 8 ans. Rendez-vous à Villeneuve-les-Maglones, à la médiathèque Georges Sand. Téléphone 04 67 69 97 17. Un site internet le www.montpellier-aglo.com/médiathèque au pluriel. Entrée libre, réservation obligatoire.
Les 21 et 22 mars, théâtre Le Siphon par Aurélien Rousseau, petit théâtre de Pin, à Montpellier, au théâtre Jean Villard à 20h. Téléphone 04 67 40 41 39. Un site internet théâtrejeanvillard.montpellier.fr. Tarif de 5 à 15 euros.
Vendredi 22 mars, danse Nous autres par la compagnie Aurélia et d'autres cordes. Rendez-vous à Villeneuve-les-Maglones. Théâtre de Villeneuve à 20h30, téléphone 04 67 69 58 00, un site internet le www.théâtre-maglone.fr, tarif 15 euros, 14 euros avec le pass aglo.
Concert Oxmo Puccino et invité rap à Saint-Jean-de-Védas, Victoire 2 à 20h, téléphone 04 67 47 91 00, un site internet victoire2.com, tarif 25 euros.
Samedi 23 mars, projection Nala, film algérien de Farouk Belloufa sur trois personnages féminins au Liban pendant la guerre civile de 1975, rencontre avec le réalisateur. Rendez-vous à Montpellier, à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Téléphone 04 67 10 70 20. Un site internet le www.montpellier-aglo.com/médiathèque au pluriel. Entrée libre.
Opéra Le Roi 10 d'Édouard Lala, sous la direction musicale de Jean-Luc Tingo, avec les chœurs et orchestres national Montpellier-Languedoc-Roussillon, un opéra organisé au profit de l'association Colline Opéra. À Montpellier, au Corum, Opéra Berlioz à 20h, téléphone 04 67 60 19 99, un site internet opéra-orchestre-montpellier.fr, tarif de 20 à 55 euros.
Futsal, Montpellier Petit Bar Futsal, Kremlin-Bicêtre. Championnat de France, rendez-vous à Montpellier au gymnase Marcel Cerdan à 16h. Téléphone 06 01 77 76 29, entrée libre.
Dimanche 24 mars, concert. Stradivarius versus Garnerius. Dans le cadre de Paroles d'instruments, découvrez la musique à travers l'histoire des violons. Dorota Anderzewska et Pavel Soum seront accompagnés au piano par Galina Soum. À Montpellier, au quartier Sainte-Anne, hôtel Magnol à 20h, téléphone 04 67 60 87 11, un site internet trans-art.tv, tarif de 15 à 20 euros sur réservation.
Du 26 au 29 mars, théâtre En attendant Godot de Samuel Beckett, une nouvelle production mise en scène par Marie Lamachère. Rendez-vous à Montpellier, au Théâtre des 13 Vents. Téléphone 04 67 99 25 00. Un site internet www.théâtre-13vents.com. Tarif de 7 à 24 euros.
Mercredi 27 mars, médiathèque Madeleine Attal. Retour sur le parcours exceptionnel de Madeleine Attal en sa présence, une femme aux multiples talents au carrefour de la radio, de la télévision, de l'image et du mot. À Montpellier, à la médiathèque Émile Zola à 18h30, entrée libre.
Les 27 et 28 mars, théâtre Médée, restitution d'après Euripide. Adaptation et mise en scène de Julien Gill par la compagnie Provisoire. Rendez-vous à Montpellier, au théâtre La Vignette. Téléphone 04 67 14 55 98. Un site internet www.théâtrelavignette.fr. Tarif de 8 à 12 euros.
Vendredi 29 mars, théâtre Deux filles en aiguille de Robin Howdon. Mise en scène de Jacques Decombe avec Alexandre Brasseur, Delphine Depardieu. Au théâtre Jacques Coeur à 20h30. Téléphone 04 99 52 95 00, un site internet ville-latte.fr, tarif 28 euros, 18 euros avec le pass aglo.
Samedi 30 mars, concert Jill is Lucky, Julien Pras et invité pop. Saint-Jean-de-Védas, Victoire 2 à 20h, téléphone 04 67 47 91 00. Un site internet www.victoire2.com, tarif 16 euros, réduction de 2 euros avec le pass aglo.
Basket, BLMA Mondeville, Ligue féminine, à Latte, au Palais des Sports à 20h, téléphone 04 67 81 63 50, un site internet blma.fr, tarif 8 euros, 2 euros de réduction avec le pass aglo.
Les 2 et 3 avril, Opéra. The Beggar's Opera de Benjamin Britten, direction musicale de Jérôme Piment, chef de chœur Vincent Recollin, mise en scène de Benjamin Prince, avec l'Orchestre National de Montpellier-Languedoc-Roussillon et l'Opéra Junior, soliste et chœur du jeune opéra. Rendez-vous à Montpellier, à l'Opéra Comédie à 20h, téléphone 04 67 60 19 99. Un site internet www.opéra-orchestre-montpellier.fr, tarif de 4 à 25 euros.
Du 2 au 6 avril, théâtre, théâtre sans animaux, texte et mise en scène de Jean-Michel Ribe. À Montpellier, au Théâtre des 13 Vents, téléphone 04 67 99 25 00, un site internet théâtre-13vents.com, tarif de 7 à 24 euros. À noter, le 6 avril, la représentation est accessible aux personnes en situation de handicap visuel.
Samedi 6 avril, football, Montpellier-Valenciennes, championnat de France. Rendez-vous à Montpellier, au Stade de la Mosson à 20h, téléphone 04 67 15 46 00, un site internet www.mhscfoot.com, tarif de 15 à 70 euros, 4 euros avec le pass aglo dans la limite des places disponibles à retirer dans les maisons de l'agglomération.
Et retrouvez plus d'infos sur montpellier-aglo.com.
Le goût de l'aglo, tartelette aux poireaux et aux blettes. Autour de cette recette de tarte salée, les cuisiniers en herbe de 7 à 8 ans mettent à l'honneur des légumes d'hiver cueillis directement dans le potager de l'écolothèque de Montpellier Agglomération. Dans le cadre des ateliers cuisine du mercredi, l'écolothèque propose aux enfants de mettre la main à la pâte, un moment d'apprentissage et de découverte pendant lequel ils concoctent une recette gourmande pour le déjeuner du midi.
La recette de l'écolothèque. Retrouvez-la sur montpellier-aglo.com/écolothèque. Tartelette aux poireaux et aux blettes. Ingrédients pour 10 tartelettes. Une pâte à tarte feuilletée, 2 blettes, une rouge et une verte, un poireau, 1 quart de chou-fleur, une carotte, 30 cl de crème de soja liquide, un œuf, cumin, sel, poivre. Émincez le vert des blettes et des poireaux, les faire revenir à la poêle. Ébouillantez les tiges des blettes et les taillez en dés, ainsi que le chou-fleur et le couper en fines lamelles. Coupez les carottes en rondelles, avec des emporte-pièces, découpez des disques dans la pâte. Mélangez l'œuf, la crème, les blettes et les poireaux, tout en les disposant sur les tartelettes. Les garnir avec une lamelle de chou et une rondelle de carotte. Cuire le tout environ 10 minutes dans un four à 180 degrés. Bon appétit.
Petit conseil de chef de Luca Poggetti, chef cuisinier de Au Bonheur des Tartes, 4 rue des Trésoriers de la Bourse à Montpellier. Pour cette recette aussi esthétique que succulente, j'utiliserai une pâte à l'huile d'olive faite maison. Afin de donner plus de saveur aux légumes, je propose de faire cuire les blettes dans un bouillon avec une feuille de laurier, une feuille d'anis étoilée et du fenouil en poudre. En ajoutant une gousse d'ail et en choisissant des poireaux jeunes, vous relèverez le goût de ce plat. Enfin, j'utiliserai plutôt de la crème de quinoa, plus légère que le soja liquide utilisé par les enfants de l'écolothèque.
Faites-nous découvrir vos recettes de saison par messagerie Facebook ou en l'envoyant à recettes@montpellier-aglo.com. La recette sélectionnée sera présentée dans cette rubrique, accompagnée de la photo de votre plat prise par Montpellier Agglomération.